Bonjour et bienvenue sur le podcast de Comic City. Salut Mig.
Salut le Srul.
C'est le 9e épisode de notre podcast, cette fois-ci consacré à DC et aux parutions en librairie. Comme toujours, si vous n'avez pas lu les publications dont on va parler, attention spoiler, vous serez prévenus. Et cette fois-ci, on va pas attaquer les reviews tout de suite, on va parler de quelques petites news avant qu'on avait pensé vous faire partager, pour ceux qui ne seraient pas au courant de certains petits trucs. Donc le premier sujet, c'est Human Target, nouvelle série de la Fox va commencer à partir de la rentrée prochaine, tirée de la BD du même nom.
Human Target, donc.
Ouais. Donc, ça t'en inspire quoi, Mig?
Bah, Human Target, j'aime beaucoup le comics. Là, c'est vrai qu'après avoir vu le trailer, bon, toi, tu m'en as dit qu'il y en avait 6 ou 7 différents.
Ouais.
Mais en tout cas, celui-là que j'ai vu moins, bah, c'est pas la plus fidèle adaptation du monde. Bon, c'est plus grand public, un peu de baston, de course-poursuite, etc. Mais le perso est un peu loin du comics, on va dire.
Bah, moi aussi, c'est un petit peu ce que j'ai eu comme impression en regardant le trailer. Comme tu disais, donc il y a plusieurs versions. Toi, celle que tu as vue, c'est celle de 3 minutes qui est la version longue. Il y avait une version plus courte d'environ 1 minute 30. Et après, il y a 4 petits extraits du pilote dont sont tirées toutes les images du trailer de toute façon. Donc ça revient à peu près au même, quoi. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a une bonne différence avec le personnage du comics, avec le fait en fait déjà qu'il ne se déguise pas.
Non, il garde son visage, en tout cas d'après ce que j'ai compris là. Hein.
En tout cas sur le trailer c'est clair, il se déguise pas. Donc.
Et puis il prend pas la place de quelqu'un pour risquer lui sa vie, il joue son rôle quoi en fait. Quoi, il joue le rôle d'un interprète pour le pilote.
Bah, en même temps, c'est peut-être aussi dû au fait que ce soit un acteur assez connu qui joue le rôle principal. Parce que quel acteur voudrait qu'il passe plus des trois quarts de l'épisode avec une autre tête, donc forcément un autre acteur.
Bah moi je trouve que ça aurait été plus dans l'intérêt de la série de prendre un acteur à chaque fois puis garder cette tête d'affiche comme tu dis comme perso de départ on va dire. Mais là ça enlève un peu le charme du truc quoi.
Justement au niveau des acteurs on aura dans le casting récurrent donc le personnage qui va jouer Chance, le personnage principal qui sera joué par Mark Valley qui a joué notamment dans Boston Justice ou dans Fringe. Il aura donc un petit staff avec lui, notamment Chi McBride, qu'on a pu voir dans Boston Public, Pushing Daisy, Though the Nine, et Jackie Early Harley, qui a joué Rorschach.
Entre autres.
Qu'on verra donc sans masque.
Je sais pas si ça va bien ça. Hein.
Et au niveau du créateur et du producteur exécutif de la série, c'est MCG, donc celui qui a fait Supernatural, Chuck, qui a réalisé Charlie's Angels. Bon, ça, c'est pas forcément... Voilà.
Ouais, non, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Hein. Chuck, à la limite, ça passe encore bien, Supernatural aussi, mais... Ouais. Les Charlie's Angels.
Et surtout, qui réalise quand même le Terminator 4, à sortir le mois prochain. Donc voilà, enfin, bon, c'est pas non plus le premier venu, quoi. Enfin, personnellement, moi, j'aime beaucoup Supernatural, donc déjà, il y a une date de MCG, donc bon, déjà...
Quand on voit le trailer, ça a l'air sympa. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est plus fait pour le grand public que pour les fans.
Ah bah, c'est de l'explosion, c'est de l'infiltration, si on peut dire, mais...
Voilà, il y a un peu d'humour aussi.
Voilà, ouais.
Il y a deux, trois petites vannes, deux, trois petites sets comiques, etc. Mais voilà, l'essence même du comics, c'est l'homme qui prend la place de la personne qui doit protéger, quoi, qui doit se protéger, qui risque sa vie... Ça a pas l'air d'être là, quoi.
Ben, le truc, c'est que moi, j'aime bien Mark Valley, de par le fait que je l'ai vu dans Boston Justice. Et dans Boston Justice, il avait un rôle plutôt comique, mais assez dépend, quoi. Il se faisait plutôt foutre de sa gueule, généralement. Mais donc, c'est pour ça que j'aime bien l'acteur. Maintenant, le voir lui faire du comique, après, je sais pas. Bon, dans Fringe, il était un peu plus transparent, à mon goût, mais...
Voilà. Bon là c'est pas non plus un comique né hein. À mon avis ça va être deux trois petites vannes
c'est des petites vannes
à la péter
À l'américaine quoi, histoire de détendre l'atmosphère un peu à la Bruce Willis dans Die Hard ou ce genre de truc là quoi.
Puis bon, l'autre truc qui m'avait un peu choqué dans le trailer, c'est qu'à la base normalement quand il prend le rôle de quelqu'un, quoi, la place de quelqu'un complètement, il est à fond dans son personnage à 100%. Je crois même qu'à un moment dans un des épisodes il dit que des fois ça met même plusieurs mois à disparaître complètement tous les tics, toutes les habitudes et tout ça, tandis que là ben voilà, on le voit parler japonais, puis il le dit clairement qu'il a menti, quoi.
Ben là, apparemment, c'est le truc, c'est qu'il prend pas la... Enfin, en tout cas, de ce qu'on peut voir du trailer et donc du pilote, il ne prend pas la place de quelqu'un, en fait. Il se fait passer pour
un traducteur.
Justement, le traducteur de la personne qui l'a engagé. Mais il prend pas réellement la place de quelqu'un, comme c'était dans le comics, justement, où il
prenait... C'est ça qui est dommage.
Le rôle. Alors, est-ce que c'est une volonté juste du pilote, ou est-ce que ce sera récurrent dans toute la série par la suite? Ça, malheureusement, on pourra le voir que quand les épisodes passeront, quoi. Mais
bon, en tout cas, ça sera un bon moment, à mon avis, de divertissement. Ça va être drôle, ça va être bien foutu, ça va exploser un peu partout. Puis, mais faut pas s'attendre à une fidèle adaptation, à mon avis.
Non, c'est clair. Bon, avec un peu de chance, si ça marche pas trop mal, peut-être que ça pourra nous faire revenir le personnage dans une série à lui, quoi.
Ou pas. On verra.
Donc voilà. Donc, bon, en tout cas, il y aura sûrement aussi pas mal de thunes derrière, parce que c'est quand même sur la Fox. Donc c'est pas le plus pauvre des networks américains.
Bon, c'est pas ceux qui font le meilleur truc du monde non plus, quoi.
Non, bah ils ont quelques bonnes séries quand même.
Oui, mais c'est pas forcément l'argent qui font fort. C'est pas forcément ce qui fait tout, quoi, l'argent.
Non, mais c'est vrai que ça aide.
Des bonnes idées.
C'est vrai que si tu produis chaque épisode avec 10 000 dollars, tu vas pas aller très loin, quoi. Donc bon, là au moins on sait qu'il y aura un peu d'argent derrière. Puis bon, il y a aussi MCG qui gère pas mal, puisque bah ouais, on a vu le résultat pour Chuck ou pour Supernatural. C'est quand même des séries qui dure dans la longueur, et même si Chuck va bientôt s'arrêter, c'est quand même des séries qui ont duré un petit moment, quoi, qu'on a du public, et voilà. Donc bon, faudra voir ce que ça donne l'année prochaine. En tout cas, ouais, à voir quand même, je pense.
Oui, ça va être sympa, je pense, mais il faudra plutôt enlever le côté fan en nous pour pas crier ou pour pas être déçu, quoi.
Ouais, enfin, déjà je trouve que l'idée est quand même beaucoup plus intéressante que les Graysons, comme on nous avait parler en milieu d'année qu'elle a été adaptée sur la CW. Je sais pas si tu te rappelles de ça.
Non, pas vraiment.
C'était la CW qui vous cherchait un remplaçant pour Smallville, vu que Smallville devait s'arrêter, puis finalement non, avait décidé d'adapter la vie de Dick Grayson, mais version moderne, sans Batman, sans rien, avant qu'il devienne Robin.
Ah ouais.
Et donc déjà.
C'est quoi, il était encore. C'est pas lui qui était dans le cirque, lui.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Eh ben.
Donc voilà. Et c'est surtout que, comme appeler quelqu'un Dick à la télé, ça craint, on l'avait appelé.
Si en plus il est trapéziste.
Voilà. Et on l'avait appelé DJ Grayson.
Ouais, bah oui.
La méga classe. Ouais, donc c'était déjà ridicule et le projet est mort dans l'œuf et c'est pas plus mal.
C'est le seul qui a réussi à avoir un nom de scène de Dick, c'est Dick Rivers quand même. Sans avoir honte, bien sûr, hein.
Oui, donc déjà, oui, voilà. Hein.
Parce que quand même, Dick Rivers, rivière de beat.
Ouais, bon, on a dans un contexte un peu moins drôle, on a Dick Cheney aussi, mais bon.
Ouais, bon, lui il est américain, ça passe mieux. Et lui, à mon avis, c'est son vrai nom, pas comme Dick Rivers.
Ouais.
Enfin bon.
Ouais, donc voilà, donc ouais, non, bah déjà, pour moi, c'est déjà plus le style qui pourra mieux passer à la télé, et faudra voir si le grand public suivra ou pas, quoi.
Ouais, ça pète de partout, ça va bien passer, je pense.
Ouais. Bah comme tu disais, c'est peut-être l'équivalent du Largo Winch américain, ce que tu me disais juste avant le podcast.
Ouais, mais j'espère que c'est vachement mieux que Largo Winch, hein.
Ah, je sais pas, c'est une série que j'ai pas du tout regardée, déjà ça m'a.
Bah écoute, j'ai dû voir 2-3 épisodes, mais j'étais tellement mort de rire. Il y avait Jean-Claude Van Damme dedans, ça aurait été encore mieux.
Excellent. Enfin bon, donc oui, voilà, donc c'était pour notre news. On a un autre sujet aussi, c'est le top 300 US du mois d'avril, les 300 meilleures ventes. Et chose rare, les deux premiers du mois d'avril sont deux DC Comics. Ça n'était pas arrivé depuis un bon moment. On a
bon, bien sûr, c'est grâce à la vente d'armes, de la drogue, de la prostitution, mais bon.
On a dans les deux, le premier c'est donc Detective Comics numéro 853, la deuxième partie donc de What Happened to the Caped Crusader par Neil Gaiman. Et le premier numéro de Flash Rebirth qui se place en deuxième position, sûrement qu'en deuxième parce qu'ils ont été vite à court de stock étant donné que tout s'est vendu en 24 heures.
Et quand même en troisième position, il y a quand même Wolverine qui est partout.
La nouvelle série de Wolverine, Wolverine Weapon X.
Et pas loin derrière, il y a Hulk quand même.
Oui.
Ma série préférée.
Septième toujours dans le top 10, incompréhensible.
Bah c'est parce que c'est la série comique de l'année, je te dis. C'est tout, c'est que t'as pas encore compris l'humour de cette série.
Donc rien que sur le top 10, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 décès. Donc la moitié, l'autre moitié étant pas Marvel, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé à ce moment-là, quoi. D'habitude, c'est plutôt du 60-40, voire du 60-30, et puis 1 pour...
Alors moi qui suis pas trop décès, parce que j'ai pas trop lu de VO par rapport à ça, puis les publications françaises étaient un peu juste, on va dire. Bah moi, ces temps-ci, décès, il y a des bonnes histoires, malgré que ce soit un peu mal publié ou mal édité, etc. Mais il y a des super bonnes histoires, quoi, ces dernières années. Donc, en même temps, ça fait un peu concurrence à Marvel, faut qu'ils se bougent les fesses.
Moi qui ai lu pas mal les trucs, là, justement, dans le top 10, les 5 de chez DC, on a le Detective Comics, c'est le seul que j'ai pas lu. que j'ai pas encore eu le temps de lire. Le Flash Rebirth, c'est lu, c'est excellent. Le Battle for the Call numéro 2 qui se place 5e, j'ai lu. Bon, c'est Battle for the Call, j'en dirai pas plus. Un article arrive dès que le dernier numéro paraîtra sur le site. Il y a le Justice Society of America numéro 26 qui se classe 8e, qui est le dernier épisode scénarisé par Geoff Johns, qui quitte Justice Society of America. Ensuite on a Green Lantern numéro 39, que j'ai lu et qui est très très bon. Donc voilà quoi, donc c'est vraiment c'est pas rien quoi, c'est vraiment des bons épisodes. Après, pour ce qui concerne Marvel, j'ai lu Wolverine Weapon X, qui est pas si mal que ça. J'attends de voir le prochain épisode pour pouvoir en dire plus. Les autres, j'ai pas tout lu, quoi. Donc, que ce soit les Dark Avengers, New Avengers, le Hulk ou le Thor, je les ai pas lus, donc je pourrais pas en parler, là.
Faut que tu lises le Hulk.
Ben, j'attends, je préfère le garder à la vitesse française, parce que le fait de les lire quelques mois auparavant, quand on est arrivé en français, je risque d'être blasé par les avoir déjà lus, en fait. Déjà que je suis déjà blasé quand je les lis une première fois, surtout les Hulk. Je vais pas me les relire une deuxième fois dans 4 ou 5.
C'est que tu manques d'humour, ça doit être ça.
Non, c'est sûrement l'humour de Jeff Lob qui me...
Ah bah moi, il me touche en plein dans le mille, hein.
Il te touche dans les parties, ouais.
Non, ça c'est toi, ça. Monsieur le Skrull, reprenez-vous.
Ok. Donc ouais, non, voilà, c'était. Je trouve que ça méritait d'être signalé, parce que c'est pas si courant que ça que DC trust au moins les deux premières places, en tout cas. Et le dernier truc dont on voulait parler, c'est le petit coup de gueule du mois.
Non, attends, qu'on voulait parler... Non, c'est toi qui voulais gueuler.
Allez, vas-y, dédouane-toi vite.
Non, c'est pas question de me dédouaner, c'est que moi j'étais même pas au courant. C'est toi qui m'as dit, ah, c'était pas possible, donc je te laisse parler.
Donc oui, moi, c'est mon petit coup de gueule du mois, c'est la sortie de Trinity repoussée au mois de juillet, et non pas au mois de mai comme il était prévu de sortir. Donc c'est repoussé, c'est hors de prix déjà à la base, 5,60€ pour 96 pages, hein, alors que la plupart des autres magazines sont beaucoup moins chers. En plus, il n'y a que la moitié des histoires de publier, Trinity étant divisée en deux parties, 12 pages de l'histoire principale et 12 pages de backup qui racontent un petit peu sur d'autres personnages, etc. Alors, pourquoi ils l'ont repoussé, on sait pas. Comme d'habitude chez Panini, on sait jamais rien. Le truc, c'est que, est-ce que ils ont entendu trop de gens gueuler sur le fait qu'il n'y a pas eu de... il n'y a pas les backups de publier et qu'ils vont rectifier ça, c'est pour ça qu'ils repoussent dans ce cas-là. À la rigueur, c'est pas plus mal. Sinon, je vois pas, quoi. Donc, je sais pas, ça te gêne pas, toi, Mig?
Bah, c'est comme tu l'as dit, DC, en même temps, ça n'a jamais été super bien publié ici.
Bah, là, le truc,
donc, d'un côté, que dire de plus, quoi? Là, ils font... je te dis, là, je lis ces derniers temps, il y a des moments où j'ai l'impression de rien capter. Il y a d'autres fois où je capte, mais par grâce à une sorte de mini-résumé dans l'histoire, ou... Puis après, quand j'en parle avec toi, tu me dis, ouais, non, c'est normal, parce que ça t'a pas été publié. Donc, oui... Puis là, le problème, c'est que... Alors, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent tout ce qui est DC, mais quand c'est publié comme ça, c'est vrai que ça donne pas forcément plus envie que ça, quoi.
Mais c'est surtout...
Moi, j'achète parce que je suis collectionneur dans l'âme, on va dire, que j'aime bien... quoi, j'aime lire tout le temps, quoi. Et puis DC Universe, bah, il va dans le tas avec tout le reste, quoi.
Moi aussi, ce qui me gêne, c'est surtout le prix de Trinity, quoi. 5,60€ pour 96 pages, quoi. Faut pas exagérer. Alors, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de publications DC, s'il est foutu hors de prix, les gens n'iront pas les acheter, quoi.
Bah c'est ça le problème, c'est qu'en même temps ils publient pas bien et en même temps c'est cher.
Oui.
Donc c'est clair que les gens vont pas faire peut-être d'efforts pour lire DC, à part pour peut-être des gens qui veulent s'y mettre absolument. Mais c'est vrai que la personne qui va dans un truc, dans une librairie ou n'importe quoi, bah entre un truc DC ou un truc Marvel, bah Marvel c'est vachement mieux publié, quoi.
Ben ouais.
Ce qui est dommage maintenant, hein. C'est-à-dire que il y a un temps où j'aurais peut-être dit non, bon bah c'est pas dommage que DC j'aime pas trop. Mais là, avec les bonnes histoires qu'ils ont publiées ces dernières années, ben je trouve ça dommage qu'ils passent à côté de ça, quoi.
Ben moi aussi, enfin moi pour moi c'est une grande perte, quoi, parce que l'avantage en plus d'avoir un deuxième mag, un troisième mag, donc Trinity, c'est que Superman Batman sort tous les deux mois. Donc il y a un mois où il y a
déjà
juste...
une erreur pour moi. Hein.
Oui, bah oui, ça oui c'est clair, on le dit depuis le début, mais il y a un mois où il y a que le DC Universe, et justement Trinity va sortir en alternance avec Superman Batman, ce qui fait que tous les mois il y aura deux magazines DC à acheter. Donc bon, c'est sûr, ça fait un peu plus dépenser d'argent, mais ça représente un peu plus la maison, quoi. Et le fait de le repousser une fois de plus, enfin bon voilà quoi, enfin ça m'a énervé, quoi, de voir ça. Donc je me faisais une joie de pouvoir commencer à en parler, et en fait non. Donc tant pis. Autre petite chose aussi, c'est que donc j'ai vu que c'était repoussé à juillet, et en même temps en juillet va sortir le premier tome de Final Crisis, donc le dernier méga crossover qui est la fin de la trilogie Crisis aux States, qui va donc sortir en juillet. Le premier Final Crisis date de juillet 2008, donc pile poil un an. Le gros souci là-dedans, c'est que dans DC Universe, ça va, les publications sont au même niveau, c'est-à-dire que quand on arrivera au DC Universe du mois de juillet, les numéros qui vont sortir, que ce soit de la JLA, de la JSC, de Green Lantern, seront datés du mois de juillet aussi. En revanche, pour Superman et Batman, c'est le chaos total, quoi. Le dernier Superman qu'on a eu, donc le mois dernier, était publié, enfin la date de publication est de novembre 2007, et le dernier Batman de février 2008. Donc il y a un méga retard. Donc ils ont deux solutions. Soit ils vont publier beaucoup d'albums, j'ai pas eu l'impression d'après ce que j'ai vu.
Ce qui m'étonnerait, hein.
Soit ils vont zapper un max d'épisodes, ce qui est pas mieux non plus. Donc
va savoir.
Donc voilà, donc là ça va être à la bourre, ça va être complètement du n'importe quoi. On aura le temps d'y revenir justement tout à l'heure dans le DC Universe sur le fait de pas publier les trucs au bon moment et ce que ça donne justement. Mais non, je trouve ça complètement crétin, quoi. C'est-à-dire que bah là Superman, il y a donc un an et demi d'écart. Donc on va nous zapper je sais pas combien de temps si on veut se mettre à niveau pour Final Crisis, ou alors on finira Final Crisis et Superman sera en retard de plus de 6 mois, quoi.
Ouais, bah c'est ça le problème, quoi. Moi je dis, à mon avis, le Superman Batman, faudrait qu'ils le mettent tous les mois.
Bah ouais, non mais complètement, ouais, faudrait qu'ils le mettent tous les mois, ouais, et puis qu'ils accélèrent.
Je comprends pas pourquoi c'est chaque 2 mois, c'est ça ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est bimestriel.
Et puis si c'est que les gens n'ont pas envie d'acheter une revue Superman Batman parce qu'ils aiment pas Batman et qu'ils préfèrent que Superman, et inversement, et ben ils ont qu'à faire 2 revues, une Superman, une Batman. Il y a largement assez de matériel à publier que les gens ne connaissent pas et qui est du bon matériel pour pouvoir faire une revue de chaque côté, quoi.
Là, Panini aime bien les packs, quoi. Depuis toujours, il y a eu un peu le package comme ça, quoi. Que ce soit avec Lux, Mic ou maintenant Panini. Il y a toujours eu ce package-là où, du genre, bah, tu prends 2-3 petites histoires, puis même si t'en aimes pas une, bah, t'es obligé d'acheter le tout pour lire, quoi.
Ou alors, il leur reste la possibilité de faire ce qui est le dernier, je crois, de la gamme, hein, le Wolverine, qui contient que 2 histoires. Je crois pas qu'il reste encore de magazine à que 2 histoires, justement.
Non, je crois que c'est Call of Wolverine, non ?
Et ben ils ont qu'à sortir 2 trucs comme ça. Un Batman où il y a 2 histoires de Batman, un Superman où il y a 2 histoires de Superman, les gens y trouveront leur compte. Et les gens qui aiment vraiment achèteront les 2. Et au moins on en aura tous les mois. Et des choses de publier, on avancera. Parce que là, c'est vraiment pas possible, quoi. Donc on va encore zapper je sais pas combien de temps. Moi ce qui m'embête, c'est pour Batman. C'est-à-dire que si ils zappent des épisodes de Batman, plus personne va rien comprendre quand on va arriver à Batman RIP. Faut être clair. Parce que là, il manque un épisode, c'est mort, hein.
Surtout qu'on m'a dit que Batman RIP, c'était assez dur à digérer quand même, hein.
Oui, c'est assez dur à digérer. Moi, je t'avouerais que même presque un an après l'avoir lu, peut-être pas complètement un an, mais j'ai pas encore tout assimilé et j'en garde un souvenir mitigé. Donc, voilà.
Ouais, si en plus ils zappent, donc...
Voilà.
Enfin bon, on verra. Peut-être qu'on est des mauvaises langues, peut-être qu'ils vont sortir un autre Mac d'ici peu, on sait pas.
Sachant qu'à la base, moi, quand j'avais lu RIP, j'avais pas tout lu avant, donc j'avais pas lu tout le run de Grant Morrison. Donc voilà, il y a aussi ça qui m'a pas aidé, mais bon. Donc bref, voilà, c'était un petit peu le petit coup de gueule. Si tu as rien à ajouter, Mick, je pense qu'on va passer au début des reviews.
Non, c'est bon, je crois que ton coup de gueule a suffi.
Ok, donc allez, on va passer aux reviews maintenant, et on commence avec le DC Universe numéro 46. Le premier épisode, c'était le JLA numéro 19, le scénario est d'Alan Burnett, les dessins sont d'Ed Benes, l'ancrage est de Sandra Hope, Ed Benes et Rui José, je pense. Là, il n'y a que toi, hispanique, qui devrait pouvoir me corriger au niveau de ma prononciation.
Non, c'est parce que je ne l'ai pas sous les yeux, c'est pour ça.
D'accord.
Alors... Non, ça ira très bien comme tu l'as dit.
Ok, merci. Donc, c'est la fin de l'arc sur les prisonniers. Bah, il était temps, hein.
Ouais, parce que Prison Break, la série, autant ça m'a saoulé ça aussi, quoi.
Donc oui, bah là ils partent sur la fameuse planète prison où sont enfermés tous les super vilains un peu contre leur gré, etc. Et où on apprend que Batman y avait placé une taupe qui était Martian Manhunter. On l'avait bien vu dans le mois dernier discuter avec quelqu'un qui devait lui donner les coordonnées de la prison.
Donc du coup c'était le Martien.
Et voilà, c'était le Martien.
Alors ouais, moi mon avis sur l'épisode, c'est que ça part bien. C'est-à-dire l'arrivée sur la planète, les petits dangers, les machins, etc. Et ça finit, ben, pas terrible.
Bah, ouais.
Ouais, c'est
en
ça.
En fait, ouais, non, j'ai essayé de sauver le truc, non. C'est pas possible.
Ouais, bah, c'est que moi, je m'attendais du jour à une sorte de, ouais, de petit guérillage, tu sais, dans la jungle, de machin. Genre, ils avaient déjà préparé des pièges, les vilains. Mais en fait, non, pas du tout, quoi.
Bah, en fait, c'est
juste un truc tout pourri.
Ils arrivent sur la planète. il trouve personne, les senseurs ne détectent personne, rien. Il cherche, il voit certains vilains, donc du genre on voit Gorilla Grodd, on voit Red Arrow croit voir chez Shire, etc. Finalement il s'avère que ce ne sont que des illusions et ils sont attrapés par Kanjaro.
Kojak.
Kanjaro qu'on n'avait pas vu depuis des lustres et ça ne manquait pas.
Bah écoute, moi je le connais pas personnellement, c'est-à-dire que je l'ai jamais vu dans un seul épisode. Bon, faut dire que j'en lis pas beaucoup non plus depuis super longtemps.
C'est surtout que c'est un vieux vilain quoi.
Bah là, la première impression c'est quand même qu'il a la classe, puis comme ils en parlent, c'est du genre il a déjà combattu 2-3 fois la ligue et puis ça leur a quand même posé problème 2-3 fois, on a l'impression.
Oui, bah oui, mais c'était il y a longtemps.
Voilà. Donc du coup, tu m'as montré un peu ce que c'était, puis ça date quand même d'il y a un sacré bout de temps.
Bah, le tout début de JLA, premier volume, donc 1963-64, par là.
Donc c'est pour dire comme c'est vieux. Donc heureusement, ils l'ont mis un peu au goût du jour.
Bah ouais, on voit l'ennemi, quoi. Allez, un demi-épisode, il s'en débarrasse tellement vite que ça donne pas envie d'en voir plus.
Voilà. Bon. Puis moi, avec la petite explication, pourquoi il n'y a pas les vilains sur cette planète.
Et voilà, vas-y, je te laisse raconter.
En même temps, c'est pas très long, hein. C'est juste que ça a été intercepté. Point.
Et donc, ils sont sur une autre planète. Mais apprenant que Batman cherchait à contacter le Martian Manhunter, il a décidé de se faire passer pour le Martian Manhunter afin de le mener jusqu'à cette planète pour pouvoir les vendre sur le marché noir.
Je crois que c'est le matériel génétique.
Enfin, ou leur matériel génétique sur le marché noir. Parce que ça se vend bien sur le marché noir, le matériel de la Justice League.
Évidemment. C'est que t'es en bourse maintenant, tout le monde le sait.
Alors, je sais pas où c'est moi qui suis réfractaire à tout en ce moment, mais putain, mais qu'est-ce que c'est naze?
Bah, c'est comme je t'ai dit, moi j'ai commencé l'épisode, je me suis dit, bon, cool, guerrier un peu urbaine comme ça, ça va un peu bastonner dans tous les sens, ça va être sympa. Et trop facile. C'est trop classique, c'est trop. Il se délivre trop facilement, je sais pas.
Alors. D'un côté, c'est vrai que j'aurais dit pareil si ça avait été genre je vais vous éliminer pour pouvoir dominer l'univers ensuite. J'aurais dit que c'était aussi naze, mais là je sais pas. Pourtant c'est une autre explication que d'habitude, mais le fait de vendre leur matériel génétique, pardon, j'ai trouvé ça un peu un peu trop ridicule comme raison pour amener la Justice League sur la planète et essayer de s'emparer d'eux quoi.
Ouais, mais je sais pas. Honnêtement, l'épisode est sympathique, on va dire. C'est-à-dire que ça se lit facilement, mais c'est pas non plus le meilleur truc du monde, quoi.
Bah disons que c'est mieux quand on le lit avec Salvation Run à côté, quoi.
Qu'on peut voir vraiment. Qu'on n'a pas Salvation Run.
Voilà. Et que apparemment il n'y a pas de plan pour le sortir en français. Faudra vous en passer ou faut s'acheter le TPB américain, quoi.
Ou en japonais, comme vous voulez.
Ça doit se trouver sur Amazon ou tout ce genre de site comme ça, quoi. Donc non, c'est un épisode qui est pas qui est loin d'être indispensable.
Ouais, il est totalement indispensable, tu veux dire.
Panini nous le publie, on va pas trop gueuler, déjà il nous publie des trucs, c'est déjà bien, hein, en DC.
Oui, bon, le seul truc que je dis qui est utile pour l'histoire vraiment, c'est une case. Quand il explique que ça a été intercepté, c'est tout.
Voilà.
À partir de là, le reste, c'est peut-être le côté un peu trop classique, il y en a un qui se libère, il balance une flèche, comme machin, il lâche le sceptre.
J'ai beaucoup aimé comment il lance la flèche, il la lance à la main, il arrive à lui trouer la main avec la flèche lancée au bras.
Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ou peut-être qu'il est trop fragile, le type, hein.
Parce que, je lisais le truc, quand je l'ai vu percer la main, je suis revenu sur la case d'avant, je me fais... Je ne voyais pas, je me dis, mais il a pas son arc. Et non, en fait, il le lance à la main. Et donc, il est tellement balèze qu'en lançant une flèche à la main, il peut transpercer une main.
Bon, estime-toi heureux, il aurait pu le lancer avec la bouche, hein.
Ouais. Bon, ok, je veux bien croire que le mec est balèze avec les flèches, mais enfin, quand même, quoi.
Là, c'est un peu le genre tireur, quoi.
Ouais, mais
comme Bullseye, mais version qu'il a jamais fait avant, puis que light test, quoi.
Il l'a peut-être fait avant, en même temps, je suis pas spécialiste de Red Arrow, mais...
Moi, pas du tout, mais...
Non, mais bon, ça m'a fait un peu... Enfin, j'ai trouvé ça ridicule, quoi. Lancer à la main, et hop, transpercer la main à coup de flèche, enfin... Surtout de lancer à la force du bras, quoi. Et du bras gauche. Et du bras gauche, précisons.
Peut-être qu'il est gaucher, puis peut-être qu'il a un bras bionique, hein, on le sait pas encore.
Ouais. Après tout. C'est des super-héros, dirons-nous.
Voilà.
Non mais ouais, donc on a fini cet arc-là, on va pouvoir passer à autre chose le mois prochain, et j'espère que ce sera un peu plus intéressant. Malheureusement, la JLA, moi, depuis quelques mois, je m'ennuie.
J'ai l'impression que c'est que des épisodes bateaux, en fait, trop classiques, trop téléphonés.
Ils savent pas quoi en faire, franchement.
Moi, c'est pas question de quoi en faire, c'est vraiment... tu lis l'épisode, puis tu sais qu'ils vont se sauver, mais puis c'est trop facile, quoi, on dirait que... Ouais, il n'y a aucune difficulté, j'ai l'impression. Ils se font emprisonner trop facilement et ils se délivrent trop facilement.
Moi je gueulais sur Dwayne McDuffie, le scénariste, il y a de ça 2-3 mois, en disant que ouais, bon bah franchement, il avait des idées un peu pourries. Bon, il avait un peu les mains liées, mais il avait des idées un peu pourries pour essayer de faire tout ça, qu'on lui imposait de mettre des trucs pour essayer de lier à la continuité. Enfin, Alan Burnett, c'est pas mieux, hein.
Ah, si tu veux, c'est peut-être une mauvaise passe aussi.
Donc voilà, donc bon bah on verra le mois prochain si ça évolue ou s'ils ont encore les mains liées par la continuité, s'il faut encore qu'ils placent d'autres trucs. Voilà quoi.
Bon, en espérant que ça s'améliore.
Moi aussi, j'espère aussi. On passe au deuxième épisode, c'était le JSA numéro 15. Le scénario est de Geoff Jones, les dessins sont de Dale Eaglesham, l'ancrage est de Prentice Rollins. Là encore, c'est la fin d'un arc, l'arc Die Kingdom Come, excusez-moi. Je pense qu'en français, ils ont envie de traduire ça par Que ton règne vienne.
Non, ils ont juste mis sous populaire.
Non, ah c'est le JLA 16 avant, d'accord, donc on va...
Ah voilà, tu t'es encore planté,
autant
bravo.
Pour moi, donc c'est le JLA numéro 16, c'est un petit backup, scénario d'Alan Burnett, encore lui, dessin de Alan Jefferson, ancrage de Alan Jefferson, donc c'est un petit backup qui avait eu lieu, qui avait été publié dans le JLA numéro 16, l'épisode sur Tangent, sur l'univers Tangent, tu dois t'en rappeler je pense, avec le Flash, la Flash et puis la batterie de Kyle
qui la luciole ou je sais pas quoi, la lanterne
qui était gardée dans la batterie de Kyle qui était gardée dans le garage de Guy Gardner. Donc voilà, et on apprend par là que c'est comme ça que sont mis au courant les notamment Red Arrow puis la JLA du fait que les vilains sont déportés sur une planète. Donc c'est bien de nous publier juste à la fin de l'arc, comme ça on comprend encore mieux les choses.
Voilà. J'ai trouvé... Au moins t'as fait ton... Là c'est quoi? C'est le troisième coup de gueule déjà?
Au moins ouais. Au moins.
Allez, on va essayer le dixième aujourd'hui.
Ah, je sais pas si j'en aurai autant après. Hein.
Bon, en même temps, si tu veux, c'est quand même bien expliqué dans les histoires d'avant qu'il y a cette déportation, la capture des vilains en masse, etc. Puis bon, bah c'est pas... Voilà, l'histoire en elle-même, là, sous populaire, c'est pas non plus le truc qui amène le plus, si tu veux, à ça, quoi, plus d'informations.
En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que pour une fois qu'un backup est intéressant et amène une histoire principale par la suite, il faut qu'il nous publie à la fin chez Panini, quoi.
Ah, mais c'est un problème de place, hein. Un seul magazine, faut savoir caser tout ça, hein.
Ouais, ok, mais je crois que ça avait été publié au moment où il y a eu le Green Lantern 25, qui était un double épisode, enfin même un peu plus d'un double, parce que je crois qu'il faisait une cinquantaine de pages. Mais voilà, quoi, à ce moment-là, ils publiaient pas l'épisode de Tangent, comme j'avais dit, de toute façon, l'épisode de Tangent, il ne servait absolument à rien. Ils auraient mieux fait nous publier ce backup-là, quoi.
Ouais, mais bon, de nouveau.
Donc, l'histoire en elle-même est pas si mauvaise que ça, je veux dire, c'est le petit conte de Noël, Red Arrow qui va à la soupe populaire et qui rencontre un ancien vilain qui croyant qu'il est venu justement le chercher pour l'emmener sur cette planète prison où tous les vilains sont déportés, lui met un petit coup de savate, lui fait voler sa soupe et essaye de s'enfuir.
Non, l'histoire est... Moi, écoute, moi, peut-être que ce qui m'a plu dans l'histoire, c'est les deux dernières cases.
Ouais, bah oui, qui sont très très bonnes, ouais.
Qui sont excellentes et qui remontent complètement tout le niveau de l'histoire, parce que là, bon, ben, pour chasser un clodo, etc., qu'il n'y arrive pas vraiment parce qu'il y a plein d'embûches, c'est pas non plus super glorifiant pour lui, mais les deux dernières bulles, bah, c'est, voilà, du genre, pourquoi tu souris? Et puis il lui répond, tu t'es souvenu de moi. Oui, et je trouve que c'est assez émouvant, quoi, d'un côté.
Parce qu'en fait, c'est un vilain qui a eu deux identités, et la première, le Red Arrow ne s'en souvenait pas. C'est à l'époque où il était Speedy dans les Teen Titans. Mais la deuxième identité, celle de Gargoyle, il s'en souvenait bien. Un peu trop bien, d'ailleurs.
Mais c'est ça ce que j'ai trouvé sympa, c'est que l'histoire en elle-même, bon, sans plus. Mais je trouve que les deux dernières bulles sont... voilà.
Mais moi, à l'époque où j'avais lu JLA 16, j'avais préféré le backup de toute façon à l'histoire. Donc là, le relire vite fait pour le podcast m'a pas gêné, au contraire. Bon, l'épisode est toujours bon. C'est juste le choix éditorial, une fois de plus, de Panini qui me gêne le fait de le publier que maintenant, quoi.
Ah ouais, mais bon, tu sais déjà que ça pose problème, ce genre de truc.
Ouais, voilà, quoi. Donc, pour le lecteur français, il a vraiment intérêt à regarder quel numéro est publié à chaque fois et de quand il date pour arriver à remettre les choses dans l'ordre. Déjà que DC, c'est le foutoir quand ils publient ça en français. Ils font ça encore plus, donc non, quoi. C'est n'importe quoi.
À croire qu'ils aiment bien les mystères, hein, puis qu'on doit résoudre des énigmes pour lire les histoires.
Et ouais.
C'est peut-être un puzzle géant.
Ben ouais, mais bon... C'est un petit peu dommage, quoi. Pour les gens qui connaissent pas trop DC, ça va pas leur donner forcément envie de s'y intéresser plus que ça, quoi. C'est ce qu'on dit depuis des mois, et malheureusement, à ce rythme-là, je crois que la licence DC va vite s'arrêter en France, quoi. ou en tout cas va s'arrêter chez Panini, quoi. Il y aura peut-être quelqu'un qui reprendra, mais à mon avis, Panini va pas la garder longtemps, quoi.
Bah, je suis même pas sûr que ça, qu'ils vont la revendre ou un truc comme ça, hein. Vu qu'il y a pas si longtemps, ils ont repris encore Sandman, deux, trois trucs comme ça. Donc, ouais, je suis pas sûr qu'ils lâchent DC.
Ouais, mais est-ce qu'ils ont négocié? Tout dépend de comment ils négocient les contrats, en fait. Est-ce que le contrat de chez DC inclut obligatoirement Vertigo, et donc pour avoir Vertigo, il faut avoir DC, ou est-ce que le contrat Vertigo est indépendant de celui de DC, et donc on n'est pas obligé de prendre DC pour avoir Vertigo? Dans ce cas-là, c'est clair qu'ils se sépareront de DC, je pense. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Enfin, la façon dont ils le publient, ça donne vraiment l'impression qu'ils veulent s'en débarrasser, qu'ils font tout pour que les gens arrêtent d'acheter, quoi.
Je te dis honnêtement, déjà à l'époque de Semic, c'était pas non plus terrible ce qu'ils faisaient, quoi, comme publication. Ouais. C'était vraiment de temps en temps un hors-série de Superman ou un hors-série de Batman, et c'était vraiment les trucs les plus pourris qui existaient, quasiment.
Le seul moment où ils ont vraiment publié DC, c'est à partir du moment où ils ont perdu les droits Marvel, de toute façon.
Bah oui, parce que là, ils ont fait enfin des revues comme ils faisaient à l'époque. Je crois que c'était DC et Icons.
Non, c'était le Strange, tout simplement.
C'était Strange, voilà.
Vous avez repris la numérotation.
Voilà, Strange, puis Special Strange, etc., quoi.
Ouais, et alors ça, par contre, Special Strange et Nova, c'était des publications Wildstorm, et l'autre, c'était des publications Topco, de mémoire.
Ouais, mais c'était pas une si mauvaise idée, moi, j'avais bien aimé ça.
C'était pas si mauvais, parce que ça permettait de découvrir certaines séries. Il y a eu des trucs comme Arcanum qui sont passés dans ces pages-là. Oula, j'ai des vieux trous de mémoire. Ça remonte à tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert ce genre de bouquin que je sais plus trop ce qu'il y avait dedans. Je me rappelle surtout ce qu'il y avait dans l'Estrange à l'époque, donc qui était la branche DC, où il y avait donc du Batman, il y avait Flash, il y avait Wonder Woman, et il y avait un quatrième, et je sais plus ce que c'est.
Voilà, je pourrais plus t'aider.
Bon, c'est pas grave. Mais voilà. Enfin, je me demande, c'était pas du Superman, je crois pas. Peut-être. Enfin bon. Non, c'était la JLA. Voilà. Les premiers numéros de la JLA volume 3. Donc c'était un bon concept, quoi. Puis ça permettait de faire découvrir DC en France.
Mais de nouveau, c'est pas, ils avaient perdu les droits de Marvel, quoi. Ils avaient perdu les droits, non. Parce que c'était à l'époque où Marvel avait fait faillite, là. Puis du coup, ils avaient plus rien, quoi.
Et puis c'est surtout aussi qu'il y avait un truc qui était génial chez Semic, quand même. C'est qu'ils intercalaient dans les épisodes, enfin entre les épisodes, des petites pages récapitulatives sur les personnages. Ce que ne fait pas Panini.
Et ouais.
Donc ça permettait d'avoir un minimum d'historique sur le personnage, un peu à la manière.
Bah, je crois que c'était plutôt à l'époque pour mettre, si tu veux, en bouche les gens, puis que j'aurais acheté des DC, les autres trucs, parce qu'on n'a plus que ça, de toute façon. Que là, j'ai plutôt l'impression qu'ils s'adressent plutôt à des gens qui veulent vraiment du DC, puis qu'ils s'en foutent un tout petit peu, du genre, bon, si vous connaissez pas, débrouillez-vous, puis essayez de vous démerder tout seul pour vous renseigner.
Bah, c'est ça.
Bon, heureusement, moi j'ai toi pour m'enseigner un minimum, même si des fois tu te plantes.
Bah oui, moi ça m'arrive, hein, c'est normal.
Et puis sinon, Wikipédia ou Google.
Bah voilà, c'est ça, tout le monde doit avoir le même, à mon avis, chez eux, donc voilà. Ils
se disent, mais je trouve ça quand même dommage d'arriver à là, quoi.
Ouais. Bon, allez, on va reprendre peut-être la suite de nos reviews, donc on va. Parce que là, les digressions, ça fait un petit moment d'ailleurs.
En même temps.
Comment ?
Donc la suite. La suite.
oui, donc c'est la JSA numéro 15. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le scénario de Jeff Jones, les dessins sont de Daily Gulsham, l'ancrage est de Prentice Rollins. Et donc c'est la fin de l'arc Thy Kingdom Come, donc traduit en français sous le nom Que ton règne vienne. Cette fois-ci, je me suis pas trompé, c'est bon ?
Non, c'est bon.
C'est la fin d'un arc qui va enchaîner sur autre chose. C'est de la baston pure et dure, hein. De toute façon, vu comment se terminait l'épisode du mois dernier, ça pouvait être que ça. Et on se rend compte finalement que Gog, enfin la personne qu'on croyait être Gog, n'est finalement pas Gog du tout.
Non, c'est juste un petit imposteur.
C'était un imposteur. Et justement, la fin de l'épisode nous révèle le vrai Gog. Et...
Bah du coup, alors déjà que le faux Gog était déjà assez balèze.
Plutôt. <ouais.
rire> Alors le vrai, à mon avis.
Déjà, il doit faire au moins 15 mètres, sinon plus.
Ou si ce n'est plus, hein, parce qu'à mon avis, c'est quand même la taille d'un bon immeuble. Hein.
Ouais.
Donc à mon avis, une trentaine de mètres, quoi.
Et vu comment il a explosé le Gog, enfin le pseudo Gog, il doit être sacrément balèze.
Ouais, quand même.
Donc, non,
mais là, bah, à mon avis, ça risque de créer des histoires, quand même. Hein.
Bah ouais. Ça va, à mon avis, ça va partir en sucette rapidement, quoi.
Bah disons qu'ils ont déjà eu du mal, si tu veux, avec le petit gars, quoi, parce que c'est un petit gars quand tu vois l'autre, c'est minuscule, quoi.
Ouais.
Alors pour le grand qui a l'air d'être vachement plus balèze, à mon avis, il y en a peut-être 2-3 qui vont mourir. Ce qui ferait du bien aussi à l'équipe. Hein.
Bah, je crois qu'il y en a déjà un ou deux qui ont quand même sacrément morflé là. Hein.
Morflé, mais pas mouru.
Bah je sais pas, on verra. On verra ce qui va rester. Moi, c'est surtout la dernière page que je trouve assez flippante, c'est le « Je viens en paix ».
Ouais, c'est comme dans Mars Attack. Hein,
ouais, voilà,
ça rappelle qu'il tue tout le monde quand même.
C'est
là, si en plus, il pousse des cris du genre « C'est bon, c'est le top.
Donc, ouais, non, bah, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode. Et donc, ouais, non, j'ai vraiment hâte de lire le prochain arc et voir comment ça va partir. Et le dernier numéro, le dernier magazine américain qu'il y avait dans ce numéro, c'était le Titan East Special numéro 1. Le scénario est de Judd Winnick, les dessins sont de Ian Churchill, l'ancrage est de Norm Rapmund, Andy Lanning et John Sibal.
Alors là, pour moi, c'était tout le contraire que de l'épisode de GLA. Ça a commencé par du genre, c'est quoi cette daube?
Ouais.
Parce que le truc classique, la baston avec le Joker et Bizarro, ben voilà quoi. Et ça termine de façon assez sympathique, on va dire.
Ah, moi j'ai trouvé que c'était magistral la fin.
Ben, oui, la fin, ben, le début quand j'ai commencé, je me suis dit, oulala, ça date de quand ça?
Ben, moi au début quand j'ai commencé, alors où j'ai raté une première bulle qui disait que c'était le passé, ou alors il n'y en avait pas, et donc c'est bien ce que j'ai cru lire, mais je comprenais pas. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a
pareil.
Joker? Pourquoi il y a Bizarro? Ils sont censés être sur une planète prison. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Après, donc il y a Robin, bon, ça encore, ça peut aller. Mais quand j'ai commencé à voir des gens comme un Flash. J'ai fait oh là, enfin Kid Flash, j'ai fait oh là, qui c'est Bart, je croyais qu'il était mort. Et en fait, il s'avère que c'est Wally, et donc là, j'ai commencé à comprendre que c'était le passé. Mais il a bien fallu, ouais, une bonne dizaine de pages avant de comprendre que c'était le passé, quoi. Donc au début, j'étais
un peu
perdu.
Tant mieux d'un côté, ça remet un peu dans l'idée que. Ouais, voilà, c'est le contraire du premier.
Mais, ouais, enfin, c'était surtout, je pense, pour nous rappeler un peu que les Teen Titans à l'époque, bah, ils roxaient la mort, quoi.
Ouais, surtout qu'ils n'arrivaient pas à battre le Joker, quoi. Je sais pas si c'est vraiment Rock, c'est de la mort.
Ah, il se mesure à Bizarro quand même, ils arrivent à lui péter sa gueule.
Oui, Bizarro, mais il y a quand même le Joker que là, il y en a 2-3 qui pourraient lui coller une tarte, puis c'est fini, quoi.
Ouais, mais il avait un autre
genre Kid Flash, il pourrait lui coller une baffe, mais bon, voilà, quoi. Ou l'emmener à 50 millions de kilomètres, ou sur la Lune, ou n'importe quoi. Je veux dire, ok, il y a Bizarro qui met un peu de trucs, mais. Bon, le petit truc drôle, c'est quand même quoi, il y a Raven qui essaie de le faire vivre ses pires peurs, puis qui se marre. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi.
Mais je sais pas si ça a été vachement bien traduit en français ou pas, là encore. Moi, j'aime beaucoup la façon dont parle Bizarro, quoi. Alors, le fait qu'il parle complètement à l'envers.
Bah écoute, traduit ou pas, voilà, quoi. Moi, c'est le genre de truc où il y a des jours où ça me donne mal à la tête. C'est d'essayer de remettre tout dans le contexte. Mais après c'est automatique, quoi. Après 2-3, on va dire 2-3 cases, 2-3 bulles, etc. Ça va tout seul, quoi.
C'est ça, moi c'est un truc qui me fait marrer chez DC, c'est qu'il y a des personnages comme ça où pour les lire, on se prend la tête. Genre Zatanna, à chaque fois on remet ses formules dans le bon sens pour arriver à comprendre. Bizarro, on essaye de traduire dans l'autre sens.
Bon là c'est dommage, il a pas son collier que j'aime tant, quoi. Le Bizarro number one. Ça manque au perso, je trouve.
Ouais. Donc il y a cette petite histoire où ils arrivent à se débarrasser, non sans mal, mais bon, ils y arrivent quand même, de ces deux ennemis. Puis après, on passe au présent, où on a Cyborg. D'ailleurs, Cyborg qui était bien absent de la première partie, qui s'est pris une patate et qu'on a plus revu.
Voilà.
Ça m'a bien fait rire, d'ailleurs. Cyborg qui contacte tous les anciens des Teen Titans pour monter une équipe. En tout cas, pour entraîner des nouveaux jeunes. Et leur montrer,
voilà, et tout le monde dit non.
Tout le monde dit non. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la réflexion de Nightwing en disant « Ouais, mais il va y avoir beaucoup de monde et tout. » Et qui dit que, justement, la JSA, ça marche bien, quoi. Ils ont beau être, ils ont beau être 150,
ouais,
ça marche
bien. Il y a
trop de monde. J'ai beaucoup pensé à toi, c'est au moment de cette phrase-là, d'ailleurs.
Moi aussi, j'ai beaucoup pensé à moi.
Donc, voilà. Et donc, il se retrouve tout seul à entraîner ses nouvelles recrues. Et donc, là, par contre, pour moi, c'était le passage lourd. Je me suis dit, bon, d'accord, ça va être une nouvelle équipe, on va apprendre des nouveaux. Alors, au début, je me disais, mais bon, j'ai vu Hawk and Dove que je connaissais un petit peu. Bon,
non, moi, je connaissais les premiers, quoi.
Bah, moi
j'avais vu des trucs vraiment super longtemps, des deux premiers.
Je connaissais pas ces nouvelles incarnations, mais je connaissais les deux premiers aussi, donc voilà. Après, les autres, je me suis dit, est-ce que je suis censé les connaître ou non? Et je commençais à avoir des doutes. Et puis bon, les personnages me paraissaient pas si charismatiques que ça.
Bon, quand même, le Power Boy, je le trouve super kitsch, quoi. J'ai rien que le nom, Power Boy.
Ah, c'est là. C'est le. Je me la pète absolue, celui.
Voilà. Après, non, sinon, il y a le Lagoon Boy, là, le sorte de. D'amphibien, on va dire.
Voilà, la créature du Black Lagoon.
Voilà. Celui-là, je le trouve sympa, quoi. Sinon, les autres, bah, c'est un peu du pompé, repompé, on va dire.
Donc voilà, donc ils leur font Victor, donc le cyborg leur fait faire une petite séance d'entraînement où ils doivent tous choper en fait le Power Boy qui lui doit se défendre. Et donc pendant qu'il y a cette petite séance d'entraînement, je commençais à me dire bon, ça commence à durer longtemps. Je savais pas trop, je me disais bon, il me reste combien de pages à lire quoi. Et là, je tourne la page et ça s'est barré en live, mais d'un coup. Et j'ai mais adoré. Je l'ai pas vu venir celui-ci, mais alors là par contre.
Ah non du tout quoi. Non. C'est-à-dire que le truc c'est que le temps qu'ils se remettent en place pour agir en équipe entre guillemets, et là tout d'un coup Power Boy, bah le kick, disparu. Empalé complètement.
Ah puis bien empalé ouais.
Alors là quand même, je vais quand même le dire, j'ai souri, hein. Je me suis dit bon bah heureusement que j'ai trouvé kick. Ah,
mais moi aussi, hein. Enfin je veux dire quand j'ai vu ça, j'ai fait. Autant je me faisais chier en lisant le truc. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je veux dire, bon, nouvelle équipe, blablabla, on a vu ça 150 fois. Ils s'entendent pas très bien, il y a le vieux dragueur, etc. Bon, le truc classique. Et là, on tourne la page et on le voit complètement empalé, mort comme une merde, il n'y a pas d'autre mot.
Ouais, c'est ça. Et après, tout le monde se fait attaquer d'un coup. C'est-à-dire qu'en moins d'une page, ouais, je crois qu'en une page, il y a tout qui part en sucette, quoi.
Ah, complètement.
Ils se font tirer dessus, ils sont touchés. Il y en a un, je crois que c'est Vulcan Boy ou je sais pas quoi, je sais pas comment il s'appelle, le fils Vulcan là.
Ouais, c'est ça, c'est Vulcan Son, c'était, je crois. Ou Son of Vulcan, un truc dans le genre.
Fils de Vulcan, voilà. Lui, il a un petit bouclier, mais le bouclier, pff, à quoi ça sert honnêtement, hein. Bam, dans le ventre. Donc non, ça c'est drôle. Et la phase de fin, grandiose. C'est-à-dire là, je crois que j'ai même éclaté de rire en lisant. Oui. Parce que du genre, tu termines de lire tout ça quand ils sont canardés, ça fait, mais qu'est-ce qui peut arriver de pire encore? Et vraiment l'énorme rayon venu du ciel.
Ah puis ouais, c'est énorme hein,
c'est pas le petit truc quoi.
Genre de truc qui peut perforer la terre quoi.
Ouais, limite hein. Bon, tu vois comme Cyborg quand même, il est assez résistant, il y a moitié de son corps qui est parti en live, sa partie humaine non par contre hein.
Oui, comme d'hab. C'est toujours la partie humaine qui reste, tu remarqueras.
Ah bah sinon il y aura plus de Cyborg hein. Il s'appellerait robot quoi.
Donc c'est à suivre. Alors je sais pas comment ils ont mis ça en français, en tout cas c'est à suivre dans la nouvelle série qui s'appelle Titan East numéro 1.
Bon, là ils ont juste mis la suite le mois prochain.
Voilà. Et donc là on se doute bien que vu qu'il a essayé de contacter les anciens, ce sont les anciens qui vont revenir.
Ouais, j'aimerais bien qu'ils vont se péter la gueule aussi.
Et qui vont reformer l'équipe à la suite. Ou je peux me tromper, mais. En logique, c'est ce qui va se passer, quoi. Les anciens vont revenir pour aider leurs potes, et finalement, ils vont dire, ah, oh, c'était bien quand on était tous ensemble. Et hop, on refait une équipe.
Mais tu sais, qui me fait penser dans cet épisode de Cyborg?
Vas-y.
Au Chevalier du Taureau dans les Chevaliers du Zodiac. Ah. C'est à chaque fois qu'il y avait des nouveaux méchants, mm-hmm. pour montrer leur puissance, ils tabassaient le taureau. Là, c'est pareil, pour montrer la puissance de l'ennemi, ils tabassent le type d'une force, mais incroyable.
Mais c'est surtout en plus qu'on sait pas qui c'est.
Non, c'est bon. En même temps, pour balancer un éclair d'énergie comme ça, c'est au moins l'étoile de la mort. Hein.
Là, je dois avouer que autant... bon, la première partie, moi, m'a plu, parce que c'est le petit côté nostalgique. Ensuite, ça m'a vachement moins plu. J'ai trouvé ça longué, vraiment lent et tout. Mais alors, les dernières pages, voilà, quoi. Ça m'a... Waouh. Ça m'a accroché. Bah... Là, j'avais envie de lire la suite.
Moi, le début, c'est pas que ça m'a pas plu, mais bon, comme c'est de nouveau, c'est du trop classique, peut-être. Je me suis dit, bon, bah, si c'est comme ça tout le long, ça va pas être terrible du tout, quoi. Puis après, ils sont partis sur le côté un peu sentimental. Je suis allé, on va former une équipe, on est plus qu'une équipe, on est une famille quand même. Tu vois, je le voyais déjà un peu trop bisounours, un peu trop gentil, et en fait, non, pas du tout. Ah ouais, à la fin, ouais. C'est limite carnage, quoi.
Ah ouais, non, franchement, une très très bonne fin, quoi. Là, franchement, je suis accroché, je veux voir la suite.
C'est clair.
Donc, pour moi, c'est pari réussi, quoi.
Ah oui, totalement. Mais bon, peut-être qu'il y a des gens qui ont été trompés par le début puis qu'ils n'ont pas continué, malheureusement.
C'est possible, ouais. C'est possible.
Par contre, ouais, la fin, superbe, quoi. Vivement le mois prochain.
Ouais. Ouais. Et puis le mois prochain, il y aura du Green Lantern, donc encore plus vivement le mois prochain. Pas de JSA, par contre, le mois prochain.
Oh non. On n'aura pas notre dose de 3000 super-héros.
Ah là là.
Mais non, je suis mauvaise langue, là, j'ai bien aimé, quand même. À part au début où j'étais un peu perdu avec tous ces persos, là ça commence à aller mieux.
Ouais, mais il faut s'y habituer quoi.
Voilà, je retiens pas le nom de tout le monde, hein, c'est pas possible. Surtout qu'il y en a 2-3 qui vont crever, donc.
Pour retenir le nom de tous les X-Men, il t'a bien fallu des années. Là, tu peux pas le faire en un mois, quoi.
Voilà, justement, il m'a fallu des années. Puis bon, ils ont pas mis tous les X-Men d'un coup dans un épisode non plus, hein.
Pas tout de suite, en tout cas.
Non, pas tout de suite, mais au début, ils sont venus peu à peu. Il y avait 10 mutants au début. Là, c'est 10 super-héros d'un coup dans une équipe.
Ouais. tape plutôt 20 même.
Ouais, et encore, c'est les visibles.
Ok, bon, bah on va passer au magazine suivant. Oui, en fait, pas le magazine suivant, la librairie, puisqu'il n'y a qu'un seul magazine DC ce mois-ci, malheureusement. Donc, on va passer à la partie librairie de notre podcast. Alors, pour commencer, Walking Dead tome 8, qui contenait Walking Dead numéro 43 à 48. Le scénario est de Robert Kirkman, les dessins et l'ancrage sont de Charlie Adlard, et les différentes nuances de gris sont de Cliff Radburn, puisque c'est un comics en noir et blanc. Donc, c'est Walking Dead, c'est toujours aussi bon. Là, je me sens bien seul.
Je croyais que t'allais continuer, moi. C'est toujours aussi bon, puis tu t'arrêtes.
Non, franchement, l'histoire est excellente, et là, c'est un gros bouleversement du status quo, en fait, qui était installé depuis à peu près une vingtaine d'épisodes. Donc, je sais même pas par où commencer, en fait.
Bah là, ça bouge déjà un peu plus. Normalement, avant, c'était, je vais pas dire un huis clos, mais c'était du genre, c'était entre la survie et c'était juste entre les zombies et puis eux. Maintenant, il y a aussi le gouverneur qui sont un peu après eux complètement, on va dire.
Bah c'est clairement la suite de l'arc précédent, enfin, il y a deux arcs en fait, où ils se retrouvaient dans cette ville gérée par ce fameux gouverneur. Qui pour moi était l'arc que j'avais le moins aimé hein, jusqu'à présent.
Bah, ça sortait un peu de la routine, un peu stressante. Ouais, c'est ça, c'était le côté survie, zombie, là, ça casse un peu ce rythme-là, peut-être.
Bah, moi, en fait, ce qui m'avait gêné, c'est le trop. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était trop, en fait, comparé au reste de la série. J'ai trouvé que ça se barrait en live. J'ai eu peur que la série dérive comme ça. Et je me suis dit, bon, si ça se part comme ça, peut-être que j'arrêterai la série. Finalement, c'est bien revenu sur les rails après et tout. Mais c'est, en fait, c'est le fait que Rick se fait amputer la main.
La main était déjà à moitié foutue. Hein.
Ouais, mais bon. Elle avait commencé à revenir bien, quoi. Enfin, plutôt bien par rapport à ce que c'était.
Il pouvait plus s'en servir à 100%, il pouvait plus tirer avec, mais ouais, elle était bien.
Il avait au moins une main pour pouvoir moins tenir des trucs.
Ouais. Tiens la salade pendant que je la coupe. Ok, pas de problème. Super utile pour la survie.
Il y a le fait que Michonne se fasse violer et torturer dans tous les sens. Enfin, pour moi c'était un petit peu too much en fait.
Moi ça m'a pas dérangé plus que ça. Au contraire, c'est-à-dire ça a mis un peu de fraîcheur on va dire, parce que j'avais peur si au bout d'un moment que le scénariste épuise un peu ses idées de.
Ouais, qui tourne en rond quoi.
Qui tourne en rond parce que là honnêtement à l'arrivée de la prison ils avaient de la bouffe, tout le lieu possible, le confort avec la petite bibliothèque, la salle de cinéma. Je me suis dit, ils ont pris trop leurs bonnes habitudes, c'est pas bon.
Moi tu vois,
en plus, il y avait la grille qui protégeait, donc en fait ils étaient pépère à l'aise.
J'aurais bien vu le truc continuer encore pendant quelques épisodes parce que finalement là ils arrivaient enfin à être vraiment calmes, parce que même depuis qu'ils sont en prison, c'est pas si calme que ça. Il y a eu le tueur de femmes, il y a eu les deux autres là, le Black et son pote l'homo qui l'aimait qui ont pété un plomb, qui ont voulu les virer de la prison. Finalement ils ont jamais pu vraiment se poser et avoir quelques épisodes de répit quoi.
Ils ont eu après le retour de chez le gouverneur, c'était quand même assez tranquille. La femme de Rick qui a eu son enfant, les petits couples s'installaient, ils s'aimaient, ils s'épousent. Donc ça c'est un peu.
Bah, on a quand même Dale qui se fait mordre.
Ouais, mais bon, il était pas assez rapide.
Ouais, non, mais
ça arrive. Ce que je veux dire, c'est que cette sécurité là, c'était plus le côté survie qui était cool, c'est sur le danger à tout moment, tu sais pas qui allait crever, comment, par les zombies quoi, on va dire, mais. Voilà, quel moment surtout.
Mais moi j'aurais bien vu en fait passer l'hiver, tu vois, et arriver à l'hiver avec plus de récolte, etc. Et peut-être des problèmes avec le gel ou ce genre de trucs là, mais je voyais pas ça arriver.
En même temps, le problème avec l'hiver, c'est qu'à la limite ils auraient fait des boîtes de conserve ou des trucs comme ça, donc ils auraient pu tenir encore. Sinon ils avaient des boîtes de conserve.
Du gel qui fait que les barrières, enfin les grilles cèdent, ce genre de trucs, il y avait pas mal de choses à faire. Ouais. Bon. Ça a pas
c'est
été
des grillages
volonté,
de prison, c'est pas non plus les grillages d'un petit jardinet non plus.
Oui, c'est sûr. Mais bon, quand il n'y a plus du tout d'électricité pour chauffer ou quoi que ce soit, que les mécanismes sont bien grippés, ça peut peut-être s'aider plus facilement.
Ouais, je pense pas. Honnêtement.
Plus le fait qu'il y ait tous ces fameux zombies qui s'agglutinent de plus en plus.
Ouais, mais ils avaient leur technique aussi pour réduire un peu cet amoncellement. Moi, c'est ça le problème que je voyais, c'était du genre, bah oui, c'est bien qu'ils aient un moment tranquille, mais faut que ça reparte encore plus fort après.
Bah, pour moi, c'est le cas d'ailleurs. Pour moi, le moment était plus court. Bon, là, de toute façon, on n'a pas le temps de se reposer du tout dans ce tome-là, puisque bah ça n'arrête pas, quoi.
Puisque, bon, ça n'arrête pas tout le long de la série, hein, si tu regardes bien.
Ouais, mais alors là, ce tome-là, ça n'arrête plus du tout, là. Dans ce tome-là, ça s'arrête plus. Ils ont vraiment pas un instant de répit. Donc, on a le gouverneur qui a décidé d'aller les traquer. D'ailleurs, le premier épisode, le 43, c'est les choses vues du point de vue du gouverneur à partir du moment où Michonne l'a torturé pour se venger.
Ouais, il aurait dû l'achever, mais bon, ça c'est... Ouais.
Et le mec est encore vivant.
Un travail mal fini.
Ça, encore une fois, c'est un peu comme Rick, quoi. Le mec est encore vivant après tout ça, bon...
Bon, Rick, d'un côté, il a été soigné juste après son amputation, donc ça va encore dans le pire, on va dire. Ouais, mais l'autre, qui lui manquait un œil, qui lui a coupé un bras à l'arrache, qui a pas été soigné tout de suite...
Qui lui a pointé les bourses aussi.
Voilà. Mais Rick, il lui a coupé le bras, puis il l'a amené tout de suite chez le médecin, ça du genre 5 minutes plus tard, quoi. C'est vrai que le gouverneur est bien resté, à mon avis, une ou deux heures, si ce n'est plus, en train de se vider de son sang, quoi.
Au moins, ouais.
Donc c'est quand même le survivant de la mort, quoi.
Donc on voit cet épisode-là, donc c'est vraiment le premier épisode, même s'il fait partie de l'arc, qui est un petit peu à part, et qui on voit comment il manipule la foule pour aller attaquer cette prison, justement.
Bon, en même temps, c'était facile, hein.
Ouais. Ouais.
La foule savait rien, autant leur raconter des mensonges, puis ça passe encore plus facilement, quoi.
Et puis à partir de l'épisode 44 jusqu'à la fin, c'est justement l'assaut de la prison par le général et ses troupes.
Quoi, c'est plus un assaut, c'est un carnage.
Ouais. Et donc là, c'est clair que le statu quo de la série est complètement chamboulé, quoi. Non seulement ils sont plus à l'abri de la prison, mais surtout, bah, il n'y a plus personne.
Bah si, il reste deux personnes.
Ouais.
Rick et son fils.
Rick et son fils. Ouais, enfin bon.
Mais d'un côté, c'est pas plus mal. Ça donne, si tu veux, de nouveau, un nouveau départ à la série, quoi.
Ouais.
Encore le côté survie où il y a Rick qui se démerde un peu tout le temps. Bon, maintenant avec un bras en moins, puis avec un gamin en plus. Quoique, le gamin, il est pas manchot non plus, hein.
Et là, je pense que le gamin, on va pouvoir le voir vraiment à l'œuvre, quoi.
En même temps, c'est un gamin, ça va être drôle, je trouve. Mais là, le côté carnage, moi, ça m'a surpris de voir en fait tout le monde crever, quoi.
Ce qui m'a le plus embêté, c'est de voir Tyrese mourir, quoi. Parce que pour moi, c'était un super.
Un peu comme une daube, hein.
Ah, comme une merde. Il y a pas de.
Et pourtant.
Mais comme quoi, en fait, c'est vraiment la volonté de Kirkman, c'est de montrer que dans cette série, personne n'est éternel, quoi. Bah, qu'à tout moment, il peut changer tout de la série, quoi.
Bon, en même temps, c'est un peu le climat de la série, c'est-à-dire qu'il y a des zombies partout, faut survivre, puis bon, bah, c'est pas parce que forcément que t'es un super balèze ou quoi que ce soit que tu vas survivre, quoi. Parce que Rick, à la base, c'est pas non plus le gars super balèze de la mort, hein.
Bah non, c'était loin.
C'est juste un type normal, un flic qui a jamais vu, qui a jamais tiré de sa vie à part une fois, puis vu comme ça tournait, voilà, quoi.
Puis bah, ouais, il a quand même aussi pété un petit peu les plombs de son côté, quoi. Il a été obligé de faire un petit peu comme il pensait que les choses devaient se faire, mais...
Ouais, mais bon, là c'est quand même je sais pas comment il va se sortir lui-même, quoi.
Mais là le truc,
vu que
c'est
sa femme et sa fille sont mortes un peu du genre d'un coup, quoi.
Ouais, bah oui, bah le bébé de toute façon, c'est pour que là il en reste plus rien.
Bon, en même temps, le bébé c'était pas le sien, donc d'un côté peut-être qu'il peut vite passer la page.
Ah, c'est pas dit que c'était pas le sien, on n'est pas sûr.
Si, elle le dit, hein. Parce qu'elle a couché avec l'autre, puis ça correspond à peu près, quoi.
Elle sait pas vraiment en fait. Moi, enfin, de ce que je me rappelle, c'est qu'elle sait pas vraiment si c'est le sien, bon, ou si c'est celui de chez
elle. Lui, il a qu'à se dire que c'est pas le sien, puis comme ça, c'est réglé. Ça sera plus facile pour lui.
Lui, il veut pas entendre de savoir si c'est, il veut pas le savoir si c'est le sien ou pas le sien. Il préfère ne pas le savoir.
Et en même temps, si jamais ça peut le rassurer, bah, il a qu'à se dire que sa femme l'a trompé, puis que c'était bien fait, c'était un châtiment divin.
Ouais. T'es hardcore, toi, quand même.
Bah quoi, attends, le pauvre, il a déjà tellement subi, il a un bras en moins, le côté, il débarque, il apprend que sa femme l'a trompé et tout. Attends.
Oh, comment t'es super hardcore.
Non, mais c'est pas qu'il soit d'accord, attends. Le type se fait tirer dessus pendant son service en faisant, t'es-tu, honneur à sa patrie, tout ça, comme diraient les Américains. Il est dans
yes
le chemin.
Yes, we can.
Voilà, yes, we can. Il se réveille, paf, plus personne. Personne pour lui laisser une... Note que la femme a même pas laissé un message, hein.
Non, que dalle.
Il se lève et qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, oh, ma femme, faut que je la retrouve. Oui, et après, quand il trouve sa noble femme, qu'est-ce qui se passe? Bah, il sait que son meilleur pote l'a trompé, quoi.
Et en plus, il est obligé de buter son meilleur pote.
En plus, à cause de sa femme.
Techniquement, c'est pas lui qui l'a buté, c'est son fils, mais bon.
Donc, tu vois, d'un côté, c'est le type qui a trop vécu la misère. Et la femme, en fait, elle a eu la belle vie tout le long.
Non, mais
oui,
bon,
je suis hardcore. Et alors?
Là, ça va repartir un petit peu aux origines de la série, c'est-à-dire de nouveau sur les routes, à essayer d'éviter les zombies, etc. Sauf que là, finalement, ils sont encore plus dans la merde parce qu'ils sont à pattes. Alors qu'avant, ils avaient quand même, ils avaient quand même un camping-car, quoi.
Je crois qu'il leur reste plus qu'un flingue, si je me trompe pas. Chacun.
Ouais, encore, je sais même pas s'ils en ont un chacun. Je sais pas si Rick en avait un ou pas.
Bah, le gamin, en tout cas, en a un.
Le gamin en a un, ça c'est sûr. Rick, je me rappelle plus.
Bon, en même temps, Rick,
j'ai pas
avec
les épisodes sous les yeux pour vérifier, là, donc,
Mais ouais, là, ils ont pas de bouffe, ils ont pas de voiture, ils ont pas d'armes, ils sont, ben, à poil, quoi.
Ouais. Je me rappelle plus si le gamin jette le sac avant ou si Rick le prend sur son dos, le sac avec de la bouffe et tout qu'il avait prévu. J'ai un peu de mémoire.
Mais même avec le sac, je crois pas que ça sera assez. Hein.
Ah, puis comme j'ai pas les épisodes sous les yeux, là je peux pas vérifier malheureusement. Mais bon.
Bon, au pire, je vais être encore un peu plus hardcore.
Ils ont un petit peu de bouffe.
Au pire, ils mangent son gosse.
Ouais. Ou le gosse mange le père, puisque de toute façon il est plus bon à rien, il a plus qu'une main.
Ouais, mais bon. En même temps, c'est peut-être le père qui va gagner dans la baston, quoique.
Ouais, mais le petit, il est rapide et tout.
Voilà, après c'est moi le hardcore. Hein.
Ouais, hardcore pour hardcore, allons-y quoi.
Non, mais bon, en tout cas là, bah, ça revient un peu aux sources. Et puis d'un côté, c'est pas plus mal parce que le côté un peu pépère à la prison, ben, je crois qu'ils avaient déjà fait le tour. Même si le gel ou oh non, les récoltes, Madame Ingalls, elles sont foutues. Tu vois ce que je veux dire ?
Non mais c'est vrai que moi j'aurais bien vu durer ça un petit peu plus longtemps. Bon, je dis pas toute la série parce que moi aussi ça m'aurait énervé au bout d'un moment parce que bon, ça allait tourner en rond.
Je t'aurais accordé 3 pages de plus.
Ouais. Franchement, 1 ou 2 épisodes de plus, ouais, mais faire quelque chose d'ultime pour le 50, à la rigueur, finir pour numéro 50 avec ça. Là, c'est au numéro 48, mais connaissant Kirkman...
Le 50, c'est encore plus dur, encore. Bah,
connaissant Kirkman, les numéros 50 sont toujours monstrueux. Donc, voilà. Moi, je les prends en VO, donc j'ai vachement d'avance. J'avais vachement de retard dans la série, parce que j'avais eu pas mal de trucs à lire, ce qui fait que je ne lisais pas depuis un moment. Je me suis retenu pour pas lire la suite, pour pouvoir en parler dans le podcast, en ayant cette envie de savoir ce qui se passe ensuite. Par contre, après le podcast, je vais craquer, je vais lire la suite, ouais, j'ai pas à attendre.
Eh bah bravo, et encore, tu vas me spoiler après.
Oh non, je te spoil jamais rien.
Ah, quasiment jamais rien, faut dire.
C'est peut-être arrivé une fois et c'était une... C'est...
Une fois seulement ?
Peut-être deux, mais j'ai vraiment pas fait exprès ces gens-là.
Salopard. Enfin bref.
Règlement de compte.
Non mais Walking Dead, ça continue d'être aussi bon, même si c'est un petit scénario un peu basique, on va dire. Parce que le côté zombie, survie, etc., c'est pas non plus...
Mais c'est excellent, ça. C'est excellent. Moi, j'adore.
Oui, mais bon, tu fais vite le tour. Là, au moins, il arrive à, tu sais, avoir... Là, c'est quoi ? On est au 48e épisode et c'est toujours aussi bon, quoi. L'ambiance est toujours aussi tendue. T'attacher au personnage, ça sert à rien de tout. Parce que ça,
on a vu ça,
à rien.
Ouais. On a vu, ouais.
Dès que tu dis, ah, celui-là, il est sympa. Ah non, il est mort. Ok, autant pour moi. Donc, non, bah, si ça continue comme ça... C'est que du bon, quoi.
Bah, je pense que ça va continuer comme ça, parce que Kirkman n'est pas un idiot, il foutrait pas en l'air sa série. Je veux dire, il a tenu aussi longtemps en étant vraiment, vraiment bon. Je pense pas qu'il fera une erreur, en tout cas pas d'ici.
Non, je pense pas non plus, mais pour tenir la longueur avec ce genre de scénario, bah, c'est dur, quoi. Parce que les zombies, vraiment, voilà, quoi, c'est dur de faire dans la même ambiance, en tout cas, continuer à être aussi bon.
Quand on les prend en numéro à l'unité, on a aussi l'avantage d'avoir les pages de lettres où donc il répond aux fans, etc. Et il explique que justement ce plan-là de les faire détruire, sortir de la prison, etc. Il avait prévu ça dès le début, quoi.
Bah c'est cool ça.
Donc il a déjà d'autres idées en tête. Ouais, il a déjà d'autres idées en tête pour la suite, quoi. Donc bon, ça c'est cool. Maintenant, on verra comment ça va partir et comment il va se diriger pour la suite, quoi.
Bah au pire lui coupe une jambe, quoi. Hein.
Ouais. Ouais. C'est Aquaman ce mec en fait. C'est comme Aquaman.
Ouais, mais bon.
Il revient avec un membre en moins.
Je pense pas qu'il va se coller un harpon quand même. Hein.
Ouais. Qui sait. Peut-être pas un harpon, mais peut-être une hache.
Et puis bon, en même temps, si c'est pour se coller un uniforme orange.
Ou alors il peut faire le truc ultime, se mettre une tronçonneuse et se la péter à la Evil Dead.
Ouais.
Ouais. Ça serait bon ça.
Je crois pas qu'il ait encore le même humour que dans Evil Dead. Hein. Vu ce qui vient de se passer, à mon avis.
Ouais, à mon avis,
l'humour ne va pas être son fort. Hein.
Il va pas être joie, ça. Si ça se trouve, il va vouloir sacrifier son fils et se suicider ensuite.
Ou pas.
Ça ne sert plus à rien de vivre.
Non, mais il va s'en sortir.
Bon, il rebondit toujours, hein, de toute façon.
Mais c'est le survivant, enfin, c'est Ken le survivant, lui.
Jusqu'à présent. Quoique, ça m'étonnerait pas que Kirkman hésite pas à le tuer, en fait.
Bah, peut-être qu'on va s'accrocher à lui maintenant, du genre comment on l'a vu survivre, puis peut-être qu'il le tue d'ici 2-3 épisodes ou une dizaine d'épisodes comme ça, dès qu'il a réuni une nouvelle bande ou un truc comme ça. Hein.
Ouais, c'est possible. Mais ça m'étonnerait pas. Le choc
moi, ça me pose ça. Mais ça, ça serait drôle, quoi, drôle. Ça serait drôle à lire, puis surprenant, quoi. C'est-à-dire que ça serait, c'est rare que, tu sais, des auteurs comme ça, ben, sacrifient leur personnage un peu, qui marche bien, on va dire, quoi. Ouais. Mais ça serait bien.
Malgré tout, c'est définitivement une série qui, bien adaptée, mériterait un passage à l'écran, quoi.
Ouais, peut-être que ça perdrait du charme à l'écran, ça. Complètement, alors.
Mais il faudrait que ce soit par une chaîne câblée du style HBO ou Showtime.
Alors en série, ou oui, FX. Mais pas en film.
Ah non, pas en film, en série télévisée.
En série, oui. Ah oui, là, oui. Je suis vachement plus d'accord. Épisode mais en film, ça serait trop contracté, ça serait trop.
Et surtout pas sur un grand network, quoi. Pas sur la Fox, sur la NBC, ABC ou l'autre, j'ai oublié, non, CBS, pardon. Parce que ce serait trop soft, parce que ce sont des chaînes un peu comme TF1 chez nous, et donc il faut pas faire de trucs trop méchants. Il faut absolument que ce soit par une chaîne du câble qui peut se permettre de faire des trucs qui rentrent dedans, quoi.
Ouais, mais je pense pas que ça va arriver.
Ben, je pense pas non plus, ça m'étonnerait, mais pourtant ça mériterait vraiment, parce que c'est vraiment quelque chose qui, je suis sûr, accrocherait vraiment les gens qui connaissent pas et qui ont pas la chance justement de connaître ça, quoi.
Bah, le problème, c'est que sortir un peu de, aussi quand tu parles de zombies, la plupart des gens voient le truc de série Z, de mangeurs de cervelle, voilà quoi. Là, ça redonne un peu l'aide de noblesse aux zombies, je trouve, quoi.
Ah, pourtant, on avait eu quand même quelques films assez excellents ces dernières années qui ont redoré un petit peu l'image.
Oui, mais bon, je dis, c'est à Shaun of the Dead que tu penses.
Je pensais
à ça.
Il
est plus comique qu'autre chose, quoi.
Je pensais à ça, mais je pensais aussi, au film de Romero, notamment le dernier, Le Jour des Morts. Et puis le remake qui avait été fait de justement d'un des films de Romero, et j'ai plus le nom en tête, Zombie. Donc le titre, j'ai plus. Bon, à part que les zombies couraient super vite, ce qui pour moi est une hérésie, mais bon.
Pourquoi ils couraient pas super vite non plus?
Pour moi, ils sont morts, donc il n'y a plus vraiment de liaison muscle-chair.
En même temps, s'ils sont morts, c'est qu'ils sont pas debout. C'est des morts vivants. Donc avec le côté vivant, ils peuvent courir à moitié. Bon, peut-être pas courir le sprint, mais trottiner quand même.
Ouais, mais enfin, quand ils ont le corps décharné, moi je les vois mal courir, quoi.
Bah pourquoi pas.
Bah ouais, enfin bon.
Et le pire, c'est que tu joues côté hors, Turbo, hein. T'es habitué à voir des morts vivants courir, se prendre des patates de la mort et tout, hein.
Ouais, mais ils sont animés par magie, là. C'est pas pareil.
Ouais, c'est de la magie, tout d'un coup.
C'est pas pareil.
C'est facile, la magie, hein.
Ouais, voilà. Oula, abracadabra.
Abracadabra, hop, je cours.
Je te le dirai pas à l'envers à la Zatanna, mais... Mais voilà, imagine. Enfin bon, non, ouais, franchement, un très très bon tome, et donc si vous l'aviez pas encore acheté, dommage, vous êtes spoilé, mais ça vaut quand même le coup de le lire.
Il fallait quand même l'acheter.
Ouais, mais ça vaut vraiment le coup d'être lu quand même, quoi.
Ouais, parce que c'est vraiment du très très bon, quoi.
Et puis, pour une fois, c'est un truc qui est pas Panini dont on parle, ce qui est assez rare, en fait.
Ouais, ça dès le cours.
Ouais, ça mérite d'être signalé
en plus.
Ils ont
pas le monopole de tout, c'est pas plus mal, ça fait un peu jouer à la concurrence, puis peut-être qu'ils se bougeront un peu les fesses pour DC, pour publier des meilleures choses.
Bah pour moi, ce serait une des meilleures choses qui puisse arriver, c'est que Delcourt récupère les licences DC, quoi.
Ouais.
Peut-être que faut voir, si. Et les publie, bien sûr. Peut-être que Panini se bougera plus.
C'est ça, qu'il les publie.
Ouais. Et pas que en tome librairie, quoi, qu'il fasse vraiment concurrence à Panini dans l'univers du magazine. Et là, peut-être que Panini se bougera un peu plus pour faire des meilleures choses.
Bah c'est peut-être ça le problème, quoi. C'est que pour l'instant, Panini, point de vue magazine, ils ont pas de concurrence.
Ils sont peut-être un peu, Spawn. Qui sont,
ouais,
encore
mais
en kiosque.
Alors un Spawn contre je sais pas combien de revues, etc. C'est ridicule, quoi. Moi, ce que je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui prenne par exemple certaines séries ou un truc comme ça. Bon, maintenant c'est pas voilà, ça va pas être trop possible. Mais là, le manque de concurrence fait que Panini fait ce qu'il veut, un peu quand il veut, comme il veut.
C'est ça, c'est dommage. C'est dommage. Bon, finalement, enfin bon. On a fait un petit coup de gueule de plus, quoi.
Voilà.
Moi qui pensais qu'il n'y en aurait pas d'autres. Ouais. Pour une fois, c'est pas moi qui ai passé que pour le ronchon, quoi.
Tu parles, mais t'as quand même approuvé ce coup de gueule.
Ah, mais complètement. Je te suis à 200%.
Tu vas être condamné pour.
Pour outrage? Outrage à Panini?
Non, pour complicité.
Ah, pour complicité. D'accord. Ouais, bah pourquoi pas. Et on continue avec Batman 19e siècle. C'était un recueil librairie où il y avait deux Elseworlds. Le premier, c'est Gotham by Gaslight, qui date de 1989. Le scénario est de Brian Augustine, les dessins sont de Mike Mignola et l'ancrage est de P. Craig Russell. Déjà, le premier truc, c'est que ça a pas vieilli d'une ride, quoi.
Non, avec toutes ces années, pas du tout.
Le truc,
c'est...
Ouais. Mais vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Je disais que le truc se lisait en fait toujours aussi bien et aussi facilement, en fait. C'est ce que j'allais dire, tout simplement.
Bon, en même temps, parce que ça se passe, tu sais, dans l'époque victorienne et tout ça, tu sais, 19e siècle, c'est sombre. Batman, ben, il colle tout à fait à l'ambiance. Puis bon, ben, ça vieillit pas, quoi. Puis le style de Mick Mignola est déjà assez bon à l'époque, et puis là il est toujours aussi bon, quoi.
Ah, c'est vrai que c'est on sent qu'il y a quand même eu une évolution dans son style au fil des années, mais il avait déjà son style qui était quand même assez marqué, même pour l'époque, quoi.
Puis je pense que d'ici 10 ans ça sera pareil, l'histoire sera toujours aussi bonne, quoi.
Ah, c'est le fait que Jack l'Éventreur, c'est complètement intemporel aujourd'hui, quoi. Dire n'importe quel gamin aujourd'hui connaît l'histoire de Jack l'Éventreur un minimum, donc ça peut être lu par n'importe qui sans souci, quoi.
Puis bon, là ils l'ont quand même tourné à la sauce de Batman, quoi. C'est-à-dire que c'est Jack l'Éventreur, le tueur des parents à Bruce Wayne, quoi.
Et justement, j'ai trouvé ça excellent parce que j'ai eu peur en lisant le truc quand Bruce Wayne revient à Gotham City et qu'il va voir son ami le commissaire Gordon après avoir passé quelques années en Europe. Gordon lui parle d'un maniaque qui a sévi à Gotham et qui en fait est ni plus ni moins qu'une variation du Joker, quoi. Et j'avais peur que ça soit un petit peu trop sur les problèmes, enfin sur l'univers de Batman remis dans un Elseworld, quoi.
Et en fait non, pas du tout.
Donc ça déjà c'était une bonne chose. Après le thème de l'histoire, comme on l'a dit, c'est vrai que c'est Jack l'Éventreur, donc c'est facile à rentrer dedans et c'est bon jusqu'au bout, quoi. L'histoire tient la route, on a un Batman emprisonné à tort, puisqu'on pense que c'est lui qui est le nouveau Jack.
Bon, en même temps, ça s'y prête un minimum, hein. Un type en cap qui se balade en noir. Enfin bon.
Non, mais
puis
non,
bon, la raison qu'il donne pourquoi Jack l'Éventreur tue ses parents, je la trouve vraiment excellente, quoi.
Ça aussi, ouais, ça c'était vraiment excellent. Ça a bien.
Donc, non, ils sont bien appropriés le perso de Jack l'Éventreur, que ça collait complètement bien avec Batman, puis le travail du scénariste, là, nickel, quoi.
Ouais, franchement, ouais, c'est pareil. C'est un truc que j'avais lu il y a pas mal de temps, je m'en rappelais plus vraiment, donc ça m'a fait du bien de le relire, parce que, ouais, j'ai dû lire ça il y a, ouais, allez, une dizaine d'années, pas loin, et là, c'est vrai que j'avais complètement oublié le truc, et là, le relire, ça m'a vraiment... J'ai eu un peu de mal à me remettre dedans, mais une fois que j'étais parti, c'était bon, quoi.
Non, moi j'ai eu aucun mal pour ça.
Donc c'était une bonne pioche, quoi. Et ensuite, on avait donc la suite qui a été faite 2 ans plus tard, qui s'appelle Master of the Future, qui était inédit en France jusqu'à présent. Le scénario est de Brian Augustine, les dessins sont d'Eduardo Barreto, et l'ancrage est d'Eduardo Barreto lui aussi. Là, ça se passe quelques années plus tard par rapport à Gotham by Gaslight. Batman a laissé tomber le manteau puisqu'il avait vengé ses parents et pour lui il avait rempli sa mission, quoi.
Puis bon, en même temps il est riche, il s'est marié, il en profite, quoi.
Oui, il a bien raison.
Puis bon, c'est plus le frustré d'avant, du genre tout pour le crime, machin, etc., sortir la nuit, je veux dire. Du coup là il est décontracté, il a vengé ses parents, il se dit bon bah maintenant, chaise longue, bien, réception mondaine.
Et donc justement là le pitch principal c'est que Gotham s'apprête à passer dans le 20e siècle. Si j'ai bien compris, on est à 8 ans du 20e siècle, et le maire qui était l'ancien commissaire dans Gotham by Gaslight décide de faire une fête sur.
Donc il a été promis quand même grâce à
Batman,
qui était le tueur en série, quoi.
Ouais, voilà, grâce à la résolution de l'affaire de Jack l'Éventreur.
Voilà.
Et donc il veut organiser une grande foire pour en fait le passage dans l'ère futuriste, si on peut dire ça comme ça.
Voilà.
Et y a quelqu'un qui veut pas, tout simplement, et qui lui ordonne d'arrêter, sinon il fait brûler la ville. Et c'est un Français, bien sûr, puisque les Français sont tous des méchants.
C'est bien connu, voyons.
Donc, non, mais c'est un petit peu moins bon quand même que le premier.
Bah disons, quand tu lis le premier, tu t'attends à la deuxième histoire que ça soit aussi sombre, aussi limite un peu glauque. Et en fait, celui-là est vachement plus lumineux dans les dessins.
Oui.
Vu que ça passe dans un autre siècle, etc. Bon, c'est voulu aussi, ça colle bien à l'ambiance et tout. Mais c'était peut-être trop lumineux pour un Batman.
Ouais, c'est vrai. Ça se passe, il y a beaucoup de scènes qui se passent en pleine journée, alors que c'est vrai que quand on lit Batman, on a l'habitude de voir les scènes qui se tournent la nuit, qui se tournent.
Puis même t'as l'impression que des fois la journée c'est de la nuit, quoi.
Ouais, voilà, quoi. Donc
là c'est vraiment des journées lumineuses, on dirait que les bâtiments sont resplendissants, limite brillants.
Ah c'est vrai que ça fait un choc comparé à Gotham, parce que les ruelles sont sales, on dirait ouais comme Londres dans dans l'époque de Jack l'Éventreur, quoi. C'est la même ambiance. Donc là, c'est vrai que, je sais pas, ils ont embauché des gens pour nettoyer.
Possible, pour la foire, hein.
Je vois que ça.
Je crois que c'est la célèbre foire de la saucisse de Gotham.
Non, mais bon. L'épisode est bon quand même, hein. C'est vrai qu'il est un peu moins bon que Gotham by Gaslight.
Mais bon, ça complète bien, c'est la suite qui était inédite, c'est du bon matériel, je trouve, comparé à d'autres trucs qu'ils avaient publiés.
Donc là, ouais, ça fait plaisir pour une fois, c'est vraiment une très bonne pioche, et ouais, là,
Je pense que c'est à avoir dans sa petite bibliothèque personnelle.
Ouais, c'est des petits objets cultes, il y a mieux comme histoire, mais ça reste quand même des très bonnes histoires de Batman, que tout grand fan ne doit pas passer à côté, quoi.
C'est surtout que c'est hors continuité, donc même les jeunes lecteurs peuvent s'y mettre, puis c'est que du Batman pur, on va dire, il n'y a pas besoin de connaître tout l'univers DC. Faut juste connaître Batman, même pas trop.
Même pas vraiment.
Puis là, c'est du service sur un plateau d'argent, c'est déjà presque du mâchouillé.
Ouais. Non, ça reste une très bonne pioche, et pour les gens qui ne l'auraient pas encore, allez-y, quoi. Bien, on va passer à la petite déception pour toi, et moi, bon, ça a été, c'est Génération perdue.
Petite, c'est un mot faible quand même.
Donc, qui reprenait une mini-série qui s'appelle Lost Boys Reign of Frogs, une mini-série en 4 parties. Le scénario est de Hans Rodionoff, les dessins sont de Joel Gomez et l'ancrage est de Don Ho. Alors déjà, le truc à savoir, c'est que si on n'a pas vu Génération perdue, le film de 1987 de Joel Schumacher, c'est pas la peine. Enfin, disons que pour bien saisir les personnages et au moins s'accrocher un tout petit peu à eux, c'est plus difficile, quoi.
Bah moi, c'est justement ça qui m'a déçu, c'est que cette BD se suffit pas à elle-même. Faut avoir vu le film, absolument, pour vraiment avoir un intérêt à la lire. Enfin, pour une fois, on sera pas d'accord là-dessus.
Ouais, on n'est pas d'accord sur ce sujet-là. De plus, cette mini-série est ni plus ni moins qu'une préquelle à Génération perdue numéro 2.
Donc, si en plus on n'avait pas vu le premier film, donc on s'était pas attaché au personnage, il faut encore voir l'autre film pour savoir la suite. Ça me pose un peu pas problème, on va dire, mais c'est normalement ça devrait suffire en lui-même, ou que ça soit un complément, ou que ça, ouais, qu'on puisse lire ça sans avoir à mater un vieux film et un nouveau film.
Bah, on n'est pas obligé de voir le deuxième si on n'a pas envie, mais c'est vrai que voir le premier, c'est quand même nettement préférable. Bon, de plus, c'est quand même un film qui est plutôt culte aujourd'hui, donc ça a pas mal marqué sa génération, quoi. C'est jamais perdu de le voir, le film.
Non, c'est pas perdu. Mais si tu vas faire un achat, puis il faut que tu ailles voir un film, acheter un CD, taper un code sur Internet pour avoir accès à autre chose, plus après demander à ta voisine qu'elle te explique tout ce qui se passe... Donc voilà, quoi. Je veux dire, c'est plus un comic, c'est un mystère à résoudre, c'est une énigme du père Fouras, ça.
Ouais, mais en même temps, normalement, les gens étaient prévenus que c'était basé d'après les personnages du film de 1987, donc forcément.
Oui, c'est basé d'après. Mais c'est comme je te dis, pour moi, c'est un truc qui devrait être, ça devrait suffire par elle-même, quoi. Enfin bon, on n'est pas d'accord là-dessus.
Ça me gêne pas qu'il y ait une continuité à travers différents médias, quoi. Qu'on soit obligé de voir un film. Enfin, on n'est même pas obligé, c'est juste que c'est plus facile à comprendre, quoi, si t'as vu le film.
Ouais, voilà. Mais donc si jamais vous avez des problèmes, vous appelez Steve. Hein ? Vous pouvez lui poser toutes les questions sur le film et tout. Pour si jamais vous n'avez pas vu les autres films, que vous n'avez pas vu le suivant.
Alors par contre, le 2, moi je l'ai pas vu, hein. Et Génération perdue, premier du nom, j'ai pas vu ça depuis au moins 10 ans, mais j'en ai encore quelques petits souvenirs par-ci par-là, et
enfin bref, moi quand je l'ai lu, je me rappelle pas avoir vu ce film. Peut-être que je l'ai vu, mais ça me dit rien comme ça. Et franchement, j'ai fini le comics, puis j'étais là, ça fait bon, sans plus, quoi.
Bah, de toute façon, honnêtement, l'histoire est pas non plus des plus passionnantes, hein. C'est pas un truc qui restera gravé dans l'histoire du comics, loin de là.
Non, loin de là. En tout cas, pour moi, même d'ici 2-3 jours, je pense que je vais l'oublier. Et peut-être même le revendre d'ici peu.
Mais c'est vrai que c'est surtout plaisir, comme je dis, de revoir certains personnages, voir ce qu'ils sont devenus, avant de passer au deuxième film, pour ceux qui vont le voir. Je sais pas encore si je le regarderai, honnêtement.
Maintenant, t'es obligé maintenant.
Ah, j'ai appris d'ailleurs qu'il allait avoir un 3, donc...
Tu seras aussi obligé de le voir, le 3.
Voilà. Le film à l'époque... Bon, aujourd'hui, il a quand même pris une sacrée claque, hein. 87, époque Loubar, blouson de cuir, gang de moto. ça fait un peu mal. Mais bon, ça reste quand même un classique, et si tu l'as pas vu, moi je te conseillerais de le voir quand même, le film. Au moins le premier.
Écoute, en tout cas, le comics m'a pas donné envie de voir ce film. Donc peut-être que je le regarderai par rapport à tes conseils, mais en tout cas pas par rapport à ça, quoi.
Ah, oh, puis bon, il y a quand même 2-3 acteurs qui sont sympas dedans, quoi. On a un Kiefer Sutherland qui est vraiment tout jeune. On a aussi, pour les nostalgiques de ce vieux film, un gamin des Goonies.
Ah, quand même, hein.
Ouais, qui a quasiment le rôle principal, en fait.
Enfin bon, comme, en tout cas comme comics librairie, moi je le trouve totalement dispensable.
Bah ouais, si on a jamais vu le film, franchement ça vaut même pas le coup.
Ce mois-ci il y a déjà assez de bons trucs, en tout cas c'est mon avis, hein. Ce mois-ci il y a déjà assez de bons trucs à acheter sans acheter cette daube.
Ouais, c'est clair. Non, franchement, ce truc-là, ça s'adresse vraiment aux gens qui ont vu le premier film et l'ont aimé aussi, parce que bah, s'ils ont vu le film mais qu'ils l'ont pas aimé, c'est pas la peine d'aller acheter ça non plus, quoi.
Voilà. Ça serait un mois où il n'y aurait rien d'autre à acheter, ben je vous dirais foncez, mais là il y a plein de trucs.
Bon, pas de chance, hein. On parle presque jamais de Wildstorm, mais quand on en parle, c'est pas forcément dire du bien, mais bon.
En même temps, s'il publie des trucs comme ça, c'est pas de notre non plus, hein.
Ouais, bon, bah ce mois-ci il y avait ça.
Voilà.
Bien, on passe maintenant à notre avant-dernier tome de librairie, c'est Project Superpowers tome 1. Qui contenait 4 épisodes, Project Superpowers 0, 1, 2 et 3. Pour le 0, le scénario est... En fait, pour tous, le scénario est d'Alex Ross et Jim Kruger. Pour le 0, les dessins sont de Doug Klauba, l'ancrage est de Stephen Sadowski avec toutes les peintures par Alex Ross. Et pour les épisodes 1, 2 et 3, les dessins et l'ancrage sont de Carlos Paul. Donc là, bah, ça surfe clairement sur la vague du Golden Age.
Ah ouais, clairement.
Il y a pas mal de retours au Golden Age ces derniers temps, notamment avec des trucs comme on a vu que The 12, bah donc la Project Superpowers, mais aussi Agent of Atlas chez Marvel, ce genre de personnages-là. Plus récemment, on a aux États-Unis les personnages super-héros de la gamme d'Archie Comics qui appartiennent maintenant à DC. Donc voilà quoi, il y a un gros retour à ce Golden Age, et donc Alex Ross a surfé sur la vague en publiant une histoire en tout cas sur un retour des héros du Golden Age et pour un petit peu réhabiliter tous ces personnages là qui sont complètement tombés dans l'oubli, quoi.
Bon, on a certains, on peut comprendre pourquoi, hein.
Quand tu vois les noms, ouais.
Genre le Fighting Yankee.
Mais encore, il a pas un des noms les plus ridicules, hein.
Non, mais c'est tout le style. Alors malgré ça, il reste bon dans cette histoire.
Parce que je sais pas si dans la version Panini il y a eu les artworks d'Alex Ross qui ont été publiés.
Ah, il y en a quelques-uns à la fin là.
Ouais, d'accord. Parce qu'il y en a en fait un par épisode américain et je veux dire, il y en a certains, quand on voit des noms comme Captain Courageous.
Oh, ça fait peur, hein. Mais bon, en même temps, c'était l'époque qui voulait ça, mais.
Mais bien sûr, bien sûr.
Disons que le Fighting Yankee, c'est tellement, on va dire. Symbolique, on va dire entre guillemets. Bah, c'est le Captain America de l'époque, hein.
Ouais, c'est ultra patriotique, mais c'est normal.
Oui, alors même comme ça, tu vois, quand je l'ai vu la première fois dans l'histoire, j'ai eu une sorte de petit sourire un peu moqueur. Et quand on lit peu à peu l'histoire, ben, on s'accroche un peu au perso, quoi, on s'attache. Malgré le fait qu'il soit pas très très charismatique, on va dire.
Et encore, ça va, ils ont gardé le nom Fighting Yankee, ils ont pas traduit par, je sais pas moi, le Yankee combattant ou un truc délire, quoi. Ils ont vraiment laissé.
Il y en a d'autres qui ont traduit complètement, du genre la terreur, le lama vert.
Oh, la terreur. Juste la terreur, même pas la terreur noire.
Je crois que c'est là, juste la terreur, je crois.
D'accord, parce que c'est Black Terror, hein. Voilà.
Bon, ça donne toujours un peu mieux en anglais, on va dire.
Ah, y a le côté.
Mais heureusement qu'ils n'ont pas traduit le Fighting Yankee, parce que là, ça aurait été grave quand même.
Le combattant américain.
Ouh. Enfin, bref. Voilà, malgré le côté un peu kitsch des persos à première vue, on s'y attache, puis franchement, ils sont bien mis au goût du jour, parce que genre, Black Terror, quand il revient, je trouve qu'il est charismatique à fond, quoi. Même le lama vert avec son nom tout pourri en français, bah il donne bien dans l'histoire.
Ah, c'est l'elfe ultime, lui, hein.
Ah, ouais, bon, j'aurais plutôt dit un druide, mais à toi de voir, si t'aimes bien les elfes, hein, c'est ma vie. Hein.
Justement, non. Mais bon, c'est non, enfin, déjà, bon, au scénario, on a quand même Alex Ross et Jim Kruger, donc qui sont derrière toute la trilogie X de Marvel, donc Earth X, Universe X, Paradise X. Donc voilà, c'est pas non plus des débutants dans le milieu. Ils ont été chercher tout un tas de personnages pour les moderniser et ils l'ont vraiment bien réussi avec une histoire un petit peu mystique au niveau de la boîte de Pandore. Je trouve que le truc tient vachement la route, quoi.
non, ça tient la route. Puis bon, avec tout le côté un peu mystique d'Hitler et tout ça, et, voilà, ça colle bien, je trouve. Avec le côté trop gentil, trop patriotique de Fighting Yankee, qui à la fin, bon, en fait, il a fait que des conneries. Bah, quoi, trop idéaliste, on va dire.
Ouais.
C'est ça, quoi.
Déjà dans le zéro, en fait, on nous raconte un petit peu où en sont les choses avant que la mini-série démarre. Puisque en fait c'est ni plus ni moins qu'une mini-série qui l'épisode 1 était prévu pour être en 6 parties, puis finalement a débordé et est prévu pour être en 7 parties. Donc ça nous laisse encore un bon gros tome d'histoire, et après à voir si ça a bien marché. Normalement ça devrait continuer vers une publication plus régulière, en tout cas. Mais ouais, donc le numéro 0, c'est un petit peu toutes les origines, comment le Fighting Yankee a décidé de, pour le bien du monde, d'essayer de les choper dans cette urne pour les remettre dedans, quoi.
Ouais, et puis ça tient bien la route. Avec la boîte de Pandore, avec son mythe qu'à la fin, quand il y a tous les mots qui étaient sortis, il restait plus que l'espoir. Je trouve que dans l'idée de mettre ce qui symbolisait le plus l'espoir à cette époque-là, c'était logique d'un côté.
Ah bah complètement, ouais. Ça, c'est vraiment une très très bonne idée, ça. Et puis donc après, on a à partir du numéro 1, et donc la suite, c'est justement le Fighting Yankee qui décide d'aller les libérer en brisant cette urne.
Ouais, qui décide. Il y a quand même l'esprit du drapeau américain. On sait pas qui c'est vraiment, hein. C'est peut-être la mort ou Steve Rogers, hein. On sait pas. Mais en tout cas, qui lui dit, bon, bah, tu vas mourir autant que tu saches que tu t'es trompé avant. Donc va rectifier tout ça, espèce de traître. Donc il décide pas vraiment de lui-même, on le pousse un tout petit peu quand même.
Pour ça, il va voir son ancien allié, un des seuls qu'il n'avait pas mis dans l'urne, le fameux Green Lama.
Le lama vert. Alors au début, je me suis dit que son pouvoir, c'était de cracher, hein.
Ouais mais non, c'est pas lama dans le sens
Moi je prends lama comme il vient en premier, hein. Après je me suis dit, ah non, c'est pas ce genre de lama poilu qui crache. Mais ça pouvait porter à confusion.
Bah, c'était expliqué assez vite dans le début que en fait il était tibétain, enfin que c'était un moine, quoi.
Oui, en même temps les lamas au Tibet, ils doivent en avoir quelques-uns, non?
Ouais, c'est possible aussi.
Ouais, être mordu par un lama radioactif, puis tout d'un coup il a tous les pouvoirs du lama. Ça aurait été possible.
Et voici Miguel Lee.
Non, tu vois.
Et pour pas trop pomper, tu vas dire Excelsius.
Voilà, Excelsius. Le lama vert. Ce sera une future histoire. Je vais en parler à Stan Lee bientôt.
Ouais, techniquement, t'aurais le droit, hein. Les personnages sont tombés dans le domaine public, donc.
Ouais, mais bon. T'aurais je crois pas que ça marcherait. Le type qui a les pouvoirs d'un lama. Enfin, bon.
Ah, qui sait.
Mais bon, l'histoire est bonne, quoi, je trouve. Moi, j'ai trouvé ça excellent. C'est-à-dire que j'avais un peu d'a priori en me disant, bon, ça risque d'être pas aussi bon que The 12. Mais comme c'est traité complètement différemment, les deux trucs. C'est-à-dire The 12, c'est plutôt des héros piégés qui se retrouvent dans une autre époque, puis ils ont du mal à s'intégrer, tout a changé. Et là, ils sont piégés, mais c'est plutôt dans le fait, quoi. Pour l'instant, le problème se pose pas encore de notre réalité, le choc encore des cultures et tout ça. Pour l'instant, c'est juste une grosse baston qui se prépare.
D'ailleurs, à ce sujet de The 12, j'attendrai pas la fin si j'étais à ta place, parce que à mon avis, elle est pas prête d'arriver.
Hein. Et ouais, comme d'habitude.
Je crois que le projet a été bien abandonné, puisqu'on en est au tome 8 aux États-Unis, on en a eu 6 en français, si ma mémoire est bonne, et depuis, il n'y en a pas. Et comme Straczynski est occupé sur Thor, et que à partir du mois d'août, il prend en main les héros d'Archie Comics qui débarquent dans le monde de DC. À mon avis, on n'est pas prêt d'avoir une suite pour The 12.
C'est bien dommage.
J'aimerais me tromper, parce que vu que c'était prévu pour être en 12 numéros, et on a eu 8, il en manque 4, c'est dommage.
Donc il va les faire pendant... faut qu'il arrête de dormir, puis qu'il fasse ça la nuit, quoi.
Ça sera peut-être comme nous avait fait Kevin Smith, quoi. 3 ans plus tard, on a la fin, quoi.
Voilà.
Ouais.
Bon, en tout cas, bon, le début de The 12 est super bon, puis... S'il y a une suite, je l'espère, puis sinon, ça serait dommage, quoi.
Projet inachevé, quoi. Mais ouais, donc pour revenir à ce projet Superpowers, alors moi franchement j'ai donc quand j'ai lu l'épisode 1, pas de problème, j'étais bien accroché, tout, il n'y a pas de souci. L'épisode 2 pareil. Par contre l'épisode 3, je me suis senti perdu, quoi. Je sais pas pourquoi. Quand tous les espèces de combattants zombies débarquent à je sais plus comment ça s'appelle, Shangri-La, voilà. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il manquait des bouts, quoi. Et d'ailleurs, j'ai remarqué ça, à chaque début d'épisode, j'ai l'impression qu'il manque des bouts. Bon, c'est des ellipses qu'on nous raconte vite fait, quoi, mais
bon, là, on voyait déjà qu'il avait des traceurs, là, la Black Terror. On voit deux, trois petits trucs qui s'accrochent à son cou, puis ils le disent bien, quoi, ils le disent assez bien, que c'est des traceurs, quoi.
Mais moi, j'avais pas fait gaffe à ça.
Bah, moi, j'ai fait gaffe. C'est que toi, tu lis un peu rapidement, peut-être.
Mais oui, sûrement, oui. Ah, mais non, mais c'est clair. J'ai lu un peu vite, mais j'avais pas fait attention à ça, ce qui fait que je me sentais un peu perdu. Je me disais, mais d'un seul coup, en plein milieu d'une bataille, comme ça...
Bah moi, au début, quand j'ai vu une cage, je me suis dit, putain, c'est bizarre, il a des puces dans le cou. Je veux dire, peut-être qu'il est resté trop longtemps dans cette boîte de Pandore, puis tout un coup, il a des puces, et après, ils expliquent. Donc, bon, c'est une mini-case, quoi, qui je crois qu'il est dans un petit coin où tu fais pas forcément attention.
Ouais, bah, enfin bon, après j'ai compris, mais c'est vrai qu'il y a cette impression d'ellipse entre chaque épisode et qu'on a l'impression d'avoir presque manqué un, si ce n'est pas un épisode complet, au moins un demi-épisode. On se dit, il manque du matos, c'est pas possible, j'ai eu une version où il y a eu des pages en moins, puis bon, en fait, finalement, non, quoi. C'est une volonté des scénaristes, bien sûr, mais c'est vrai que moi, ça m'a fait bizarre.
Moi, ça m'a pas choqué plus que ça, en fait. Ça m'a même pas choqué du tout.
Et puis bon, bah, au fur et à mesure au fil des pages et des épisodes, on voit pas mal de héros de l'ancien temps revenir. Donc on voit le retour de Sanson.
Ah, superbe. Ça, je crois que c'est un de mes passages préférés.
J'aime beaucoup le style, quoi.
Bah, le style, au début, quand tu le vois dans le premier épisode, on dirait que ça, si tu veux, que c'est juste une sorte de Conan des temps modernes avec plein de pouvoirs. Puis là, avec son côté aveugle, machin, où tu vois ce qu'il a fait pendant le largage de la bombe, quoi, Nagasaki, bah il prend de l'ampleur, ce perso, quoi. Surtout quand il voit, tu sais, si tu veux, l'autre super-héros, quoi, le nouveau, je crois que c'est le Scarabée bleu, ou non?
Ouais, c'est
non,
ça, ouais, le Blue Scarab, ouais, c'est ça.
Et puis, qui lui dit, non, attention, monsieur, vous allez mourir. C'est genre, non, t'inquiète, c'est bon, je gère. Donc non, puis en plus, c'est une sorte d'illuminé qui a vu, bah ouais, la lumière en même temps, ouais, il a dû voir une grosse lumière d'un coup, lui. Donc non, le perso, je le trouve super fort, comme Black Terror, je le trouve aussi, ils sont mis au goût du jour, mais de façon incroyable, quoi.
Moi, le perso qui m'intrigue le plus et que j'attends le plus de voir, c'est le Death Defying Devil, celui que, ouais, qui se retrouve à Paris.
Qui est en France.
Alors, d'ailleurs, c'est pareil, il y a une petite erreur à ce sujet, ça m'a fait un peu rire, c'est que dans la version française, à mon avis, ils ont dû garder pareil, quand le flic qui l'a sauvé lui parle, on voit qu'il y a les petits crochets comme on fait quand c'est quelqu'un qui parle dans une langue étrangère. Et donc, comme il répond pas, on se dit, bon, bah, c'est qu'il comprend peut-être pas le français, quoi. Ce qui paraît très logique. Mais quand on le revoit, je sais plus si c'est l'épisode d'après ou si c'est des pages plus tard, il y a plus ces bulles quand elle lui parle et il y a pas de problème, quoi.
Bon, il peut être bilingue aussi les deux, hein.
Ouais, mais bon, enfin, ça m'a paru un peu facile comme truc, quoi.
Puis bon, en même temps, là, il a l'air un peu muet quand même, parce qu'il lui écrit son nom à un moment sur un calepin.
Du coup, ouais, il a l'air muet en fait. Mais c'est vrai que au début, on se disait, il lui répond pas parce que c'est du français qui comprend.
Voilà.
Qui
comprend pas, bon, en fait, quoi. Il est peut-être juste muet à la Bernardo, quoi.
Mais là, tu vois, c'est un truc que j'aurais aimé, qui est peut-être juste une petite case pour expliquer, genre qu'elle dise peut-être parler en anglais pour que vous compreniez mieux, ou j'en sais rien. Un truc dans le genre. Là, pour moi, c'était un petit truc raté. Bon, c'est vraiment qu'un tout petit détail, mais...
Bon, en même temps, c'est bien connu par les Américains que les Français sont tellement sûrs que tout le monde parle français dans le monde qu'ils continuent quoi qu'il arrive.
Oui, bah, c'est pas...
C'est normal, c'est logique. C'est qu'aux États-Unis, il y a quand même pas mal d'a priori sur les Français.
Oui, bah, pas qu'aux États-Unis, hein, partout dans le monde, mais...
Voilà.
En même temps, sur ce côté-là, ils ont pas tort. Hein.
Non, on va pas se lancer sur des sujets comme ça, s'il te plaît. Oui.
Merci.
Mais bon, voilà, quoi, c'est...
Ça m'a fait...
Moi, l'histoire, j'ai trouvé super bien. C'est vrai qu'après, bon, il y a peut-être deux, trois petits trucs qui gênent ou n'importe quoi, mais voilà, moi, quand j'ai terminé de lire ça, j'étais super content, quoi.
Bah oui, c'est clair que ça donne envie de lire la suite, quoi, de voir comment tout ça va tourner, quoi. Est-ce que le Fighting Yankee va vraiment crever? Est-ce qu'ils vont arriver à se séparer de tout ça? Est-ce qu'ils vont tous revenir? Est-ce qu'ils vont tous les réenfermer dans la boîte, finalement?
Bon, ils sont déjà tous revenus, ils sont juste éparpillés, quoi.
Ouais, mais bon. Moi, je m'attends un peu à... Je m'attendrais plus à un final comme ça, finalement, que décide de
tout se remettre dans la boîte. Ça serait pas mal. Si ça finit mal pour une fois, c'est pas plus mal non plus, hein.
Ah ouais, non, mais de toute façon... pour moi, je pense que l'histoire peut aller dans ce sens-là. Je me trompe sûrement, étant donné que si ça marche bien, il y aura des suites, donc... voilà. Mais bon... Non, puis bah, J'ai beaucoup aimé aussi cette façon de décrire un monde complètement intemporel, parce qu'on n'a aucune idée de quand ça se passe. Ça pourrait très bien être 2010, comme ça pourrait très bien être 2100.
Bah, le problème, c'est que là, ils ont quoi ? Le problème, non. C'est qu'ils ont inventé, si tu veux, toute une sorte de nouvelle société, vu que les super-héros ont été enfermés dans l'urne. C'est que tout s'est pas passé comme ça aurait dû se passer, quoi. Les défenseurs étaient pas là, quoi. Puis, il y en a certains du genre Dynamic Man qui ont profité pour faire tout un système un peu tyrannique, on va dire.
Oui, et puis alors, sa façon de faire des soldats avec des morceaux de cadavres, une espèce de soldat Frankenstein, qui quand il meurt au combat, reviennent aussitôt.
Bah, du coup, il y a plus de morts pendant la guerre.
Ah, c'est sûr. Mais bon, les guerres sont éternelles.
Voilà. Bon, ils disent que c'est d'un côté, hein, de l'autre, à mon avis, ils continuent à mourir. Mais non, mais ça aussi, c'est une super idée pour mettre ça dans un contexte un peu plus intemporel, quoi.
Puis bon, le fait que ce soit, que ce soit un robot, que le mec ait pas changé, tout ça, bon, voilà, quoi.
Bon, ça, on sait pas trop si c'est vraiment un robot ou si il est planqué, c'est genre un petit papy enfermé dans une pièce, ou vu qu'on a des milliers de ces Dynamic Men, là.
Non, mais il y a pas mal de bons concepts, quoi. C'est vrai que. Au niveau de remise à jour, c'est vraiment bien pensé, quoi.
Ouais, parce qu'ils auraient pu complètement se péter la gueule en essayant de faire un truc comme ça, quoi. Bah, c'est vrai, quand tu vois les persos à la base, bah tu dis, bon, ben, c'est pas les plus charismatiques du lot, quoi.
Là, c'est vrai que des persos qui n'ont pas été touchés depuis au moins 50 ans, et qui en plus étaient pour la plupart créés à des fins patriotiques, et puis bah, surtout pour copier pas mal de maisons d'édition qui à l'époque avaient bien marché, histoire de surfer sur la vague. Voilà, quoi. Il y avait de quoi être complètement dépassé, quoi. Déjà que pour certains, ce sont des copies de personnages déjà existants. En plus, ils ont pas été touchés depuis, au moins 50 ans. Forcément qu'ils allaient faire tâche, quoi.
Bah, forcément, ils étaient dans une nuit. Hein. Comment tu veux qu'ils les touchent?
Oui, enfin, l'explication est bonne pour le fait qu'ils aient disparu.
Voilà.
Donc, ouais, non.
Mais sinon, en tout cas, non, c'est... moi, je trouve que, faut l'acheter, quoi. Parce que l'histoire est vraiment très bonne, les dessins aussi.
Ah oui, on en a pas parlé, mais c'est vrai que, Les dessins de Carlos Paul, parce que bah finalement vu qu'il y a 3 épisodes qui sont dessinés par lui, c'est la majeure partie du truc, sont vraiment beaux, quoi. C'est beau.
Et ça colle super bien avec le style, quoi.
Donc c'est vraiment une bonne pioche aussi, quoi. C'est vrai que ce mois-ci on a été gâté, il y a quand même des bons trucs.
Non, ce mois-ci, ben bizarrement, ben il y a beaucoup de bons, mais très peu de mauvais, on va dire.
Ça change. Il y en a un dont tu t'en rappelles, je pense, un mauvais.
Lequel? Je m'en souviens plus.
Le Hellboy.
Ah, le Hellboy, ouais. Enfin bref, on va pas parler de ça.
Donc non, mais ouais, ça c'est une bonne pioche. Pareil, si encore vous ne l'avez pas acheté, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, entre guillemets, quoi.
Oui, parce que vaut mieux les ouvrir pour le lire. Hein. Faites pas comme Steve qui loupe tout quand même. Hein. C'est peut-être pour ça que t'as eu du mal, hein.
Non, mais je sais pas, j'ai lu un peu vite peut-être. Ce serait pas la première fois que ça m'arrive. Enfin bon. Et on termine notre podcast de ce mois-ci avec une publication Marvel, encore une fois, mais une publication librairie. C'est 1985, donc qui publiait la mini-série Marvel 1985, qui était en 6 parties. Le scénario est de Mark Millar, les dessins sont de Tommy Lee Edwards, l'ancrage aussi d'ailleurs. Et franchement, ça c'est vraiment une super bonne surprise.
Ouais. Franchement, ouais. C'est-à-dire que c'est pas non plus le meilleur scénario de tous les temps, mais le côté un peu souvenir, j'ai adoré, quoi.
Bah pour les nostalgiques comme nous, ouais, c'est clair.
C'est-à-dire, moi, c'est une partie de mon enfance, quoi. D'ailleurs, quand je suis allé l'acheter, il y a mon libraire qui m'a dit « Achète-le, on dirait toi quand t'étais gamin. » Donc peut-être que j'étais un peu trop bloqué dans les comics quand j'étais plus jeune. Donc lui, il me connaît quand même depuis plus de 15 ans maintenant, donc ouais. C'est pour dire.
Ouais, ça va.
Ouais, ça va. Donc d'un côté, voilà, quoi, et puis c'est vrai, quoi, je me suis peut-être un peu identifié au gamin qui lit ses BD, qui y croit tellement que personne, ouais, qu'il y a personne qui le croit que ça existe, voilà, superbe.
Je veux dire, quel gamin de 12-13 ans, comme le héros de l'histoire, n'a pas rêvé un jour de voir débarquer les super-héros, bon, pas les vilains comme dans l'histoire, mais les super-héros dans le monde réel, quoi, et pouvoir interagir avec eux parce qu'il les connaît, parce que pour eux c'est comme sa famille, etc. Enfin,
vieux fans comme nous, c'est pour moi en tout cas, c'est comme il y en a certains du genre les X-Men ou d'autres. J'ai grandi avec, j'ai vu l'évolution des persos, etc. Puis c'est un peu de la famille, quoi. C'est des amis proches, puis tu t'y attaches, quoi. Il y a des mauvais moments, puis il y a des bons moments.
Bah ouais, non, mais c'est exactement pareil pour moi, hein, je ressens exactement la même chose. Mais je me dis que voilà, c'est, je pense qu'il n'y a pas un gamin qui n'a pas au moins une fois dans sa vie rêvé de ça, quoi. Je veux dire, ou alors c'est un menteur.
Bon, à des gamins qui lisaient les comics, hein.
Oui, non, mais oui, bien sûr, pris dans ce contexte-là. Bon, peut-être que maintenant, aujourd'hui, c'est légèrement différent, étant donné que nous, à notre époque, on n'avait pas le surf sur Internet, on n'avait pas les jeux en réseau comme les gamins ont aujourd'hui. On avait peut-être un peu moins de choses. Bon, on n'est pas si vieux que ça non plus, hein, on jouait pas avec un bâton dans la rue, faut pas exagérer.
Non, mais bon, si tu replaces des trucs dans le contexte, maintenant ils ont les films, si tu veux, de Marvel, même s'ils sont pas tous super top, on va dire.
Ouais.
Ils ont Internet où ils peuvent pirater des bandes dessinées facilement.
Ah, c'est pas bien.
Non, c'est pas bien, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui le font. Donc, d'un côté, l'ouverture sur les comics avec une facilité, l'univers Ultimate qu'ils ont créé exprès pour ces nouveaux fans. Donc, d'un côté, c'est comme nous à l'époque, hein, si tu regardes bien.
Mais bon, je pense qu'ils ont peut-être moins le temps de rêver, parce que c'est vrai que les gamins ont vachement moins d'imagination aujourd'hui.
Non, alors c'est pas une question d'imagination, c'est que
si,
tu regardes cette nouvelle génération, c'est plutôt tout basé sur la réputation, le paraître, etc. Peut-être, quoi.
Bah, je le vois bien parce que ma femme est prof.
C'est aussi pareil. C'était aussi pareil quand j'étais petit, hein. C'est-à-dire que moi, on se foutait de ma gueule quand je disais que je lisais des comics, hein.
Oui, bah oui, moi aussi, ça aussi, je l'ai bien entendu, quoi. Ça aussi, ouais. Ah, mais c'est pour les bébés. Mais oui, bien sûr.
Même quand je suis sorti avec certaines filles, j'ai dû leur mentir jusqu'à qu'elles arrivent chez moi, hein. Après arriver chez moi, c'était trop tard pour mentir.
Ouais, et comme nous, tu fais en plus des jeux de rôle.
Ah, ouais, bon, les jeux de rôle, tu peux vite planquer ça, qu'est-ce. C'est de bouquins, c'est de petits trucs. Putain, c'est encore pire que la BD, je crois.
Mais voilà, quoi. Donc les comics, les jeux de rôle, oh là là, on est mal parti. Oh, finalement,
ah oui.
On est bien tiré, hein. Ça va.
Ah oui. Quand même.
C'est vrai que le problème de l'imagination, comme je disais, c'est que ma femme étant prof, elle le voit bien tous les jours. Les gamins, on leur demande de raconter une histoire qu'ils inventent eux-mêmes, ils en sont incapables. Ils sont incapables de faire un sujet d'imagination aujourd'hui. Alors que je suis sûr que toi, comme moi à l'époque, je veux dire, c'est ce qu'on adorait à l'école, quoi. Un sujet d'imagination, ouais, cool, on va pouvoir se laisser aller, quoi.
Bah moi, je me rappelle quand j'étais petit, c'est pour te dire le côté imagination un peu nul. Tu sais, on jouait pas au loup traditionnel, nous. Ah. On jouait au loup schtroumpf.
Oula.
C'est-à-dire qu'on se donnait des rôles de schtroumpf et c'était Gargamel qui devait attraper les schtroumpfs.
Excellent.
C'est pour te dire jusqu'où on allait des fois dans la folie.
Ouais, mais voilà, quoi. Enfin, à notre époque, malgré tout, on avait peut-être pas tout ce que les gamins ont aujourd'hui. Et on s'en apportait pas plus mal, vraiment, quoi.
Bah, c'est une autre génération, quoi, avec d'autres avis, d'autres trucs. Les consoles ont fait place, si tu veux, peut-être aux bouquins, aux bandes dessinées. Ouais, c'est une autre génération. Puis peut-être que les comics, pour eux, bah, c'est comme pour nous à une époque, c'est du genre, bon, bah, quoi, pour nous. Pour les autres, quoi, on va dire. Quand c'était pourri, que c'était pour les gamins. Donc peut-être qu'il y en a certains qui sont encore réfractaires à ça.
Ah, quoi. Bah, il y en a beaucoup, surtout en France, hein.
Ça, surtout partout, hein.
Mais
j'habite en Suisse, c'est pareil, encore pire.
Ouais,
hein.
Quand je dis en France, ouais, enfin quand France.
Et heureusement, si tu veux, que mes origines espagnoles, quand j'y vais au moins une ou deux fois par année là-bas, là-bas, le comics est plus qu'implanté, on va dire. La BD franco-belge, c'est vraiment le côté un peu indépendant, on va dire. Quoi, c'est surtout que ça coûte super cher.
Ouais,
mais là-bas, tout le monde connaît Spider-Man, Superman, tout le monde, quoi. Même mon père connaît, si tu veux, le Prince des Mers, Captain America, il connaît vraiment tous les vieux trucs, quoi.
Bon, mon père, ça va, c'est lui qui m'a initié, mais bon. Donc, c'est
enfin,
pareil,
bref.
Mais bon.
Après, c'est des problèmes de génération, puis c'est des, puis c'est vrai que maintenant, les mangas ont pris un peu le pas sur les comics, quoi.
On va pas non plus partir dans un débat sociétal, parce que c'est pas vraiment le lieu. Mais c'est vrai que, ouais, voilà, quoi. Donc, pour moi, je pense aussi pour toi, 1985, c'est vraiment le rêve de gosse accompli, quoi.
Ouais, à part le côté vilain, puis encore les vilains encore plus hardcore que dans les comics, quoi.
Bah là, ils se déchaînent, ouais.
Voilà. Mais... C'est-à-dire, c'est plutôt des meurtriers finis. Bah, c'est des vrais vilains quand tu regardes.
Ouais, voilà.
Ils se déchaînent.
C'est les vilains comme ils devraient être.
Voilà, dans la vraie vie.
C'est vrai que là, un truc qui m'a surpris, moi, de mon côté, c'est que je suis pas le plus grand fan de Mark Millar de la planète. Même plutôt l'opposé, d'ailleurs. Généralement, je suis vraiment loin d'accrocher ce qu'il fait, à part là, le Old Mad Logan en ce moment. Généralement.
C'était vachement bien.
Je l'ai pas lu en entier, Wanted. J'ai dû lire un ou deux épisodes, et puis j'ai pas plus accroché que ça.
Alors moi, j'avais bien aimé le concept. Bon, malgré tout, Millar a eu ses bons moments, et puis là, ses mauvais moments. Il y a ses détracteurs, mais bon, c'est comme toujours, quoi.
Après, bon, il y a des trucs comme les 4 Fantastiques qui scénarisent en ce moment, que moi, enfin, en tout cas, de ce qui sort en France, moi, j'accroche pas du tout. Son Kick Ass, j'ai pas du tout accroché.
Ah, moi, j'ai adoré.
Ben ouais, donc voilà. C'est pour ça, pas vraiment un fan de Mark Millar, donc quand j'ai entendu parler de 1985, j'en ai entendu du bien, mais j'entendais que c'était de Mark Millar, j'étais hésitant. Finalement, je regrette pas du tout, quoi. C'est vraiment super bon, quoi.
Et puis bon, le petit clin d'œil à Stan Lee et Jack Kirby au début, voilà, quoi. Là, j'ai eu un frisson au début, j'étais où, là?
Ça commence bien.
Voilà, ça commence bien. Puis, y a rien à dire, quoi. Les dessins, moi, je les trouve excellents. Ça colle complètement à l'ambiance, qu'on va dire.
J'ai trouvé que c'était un style très John Bon Léon, en fait. Je sais pas si tu te rappelles de ce dessinateur.
Ouais.
Je trouve que c'est exactement dans la même veine. Assez dans le sombre, dans
ça colle tout à fait, c'est pour rendre le côté, là en plus il change de style quand il passe dans le monde des comics, quoi, dans le monde Marvel. Ouais. Et je trouve que ça colle super bien, le côté super sombre avec la violence des super-vilains et tout ça. Et après tu passes au côté un peu plus pastel.
Ah c'est complètement cartoony même, je trouve, dans l'univers Marvel.
Voilà.
Même les dessins, même au niveau du dessin et de l'ancrage, c'est vachement plus cartoony, quoi. Ça brille, c'est vraiment du dessin animé limite.
Oui, parce que c'est l'imaginaire, quoi, c'est ça.
Voilà, c'est de la BD, quoi.
Donc non, le dessin colle complètement à l'histoire, puis bon, c'est ça, c'est du pur... c'est comme s'ils avaient pris une partie de notre enfance, quoi, pour la faire revivre maintenant.
Non, franchement, ouais, j'ai adoré. Et ce que j'ai trouvé le plus émouvant de tout, ce sont les dernières pages, en fait.
Colossus, hein, c'est ça.
Non, les dernières pages.
Ah, non.
Le moment où, justement, où son père meurt, et le gamin part en Angleterre comme c'était prévu, et finalement il explique qu'il part en fac, etc., et que la dernière année il abandonne pour devenir scénariste chez Marvel. Ouais. Et il nous apprend en même temps qu'il avait demandé aux super-héros qui étaient venus débarrasser le monde des super-vilains de prendre son père avec eux, de l'amener dans l'univers Marvel. Et justement, en étant scénariste chez Marvel, il peut influer sur le monde et donc fait ressusciter entre guillemets son père. En plus, dans la chambre d'hôpital, réveillé par Jane Foster, dont il était amoureux.
C'est son premier grand amour, au père.
Et je sais pas, j'ai trouvé cette scène super émouvante, quoi. Et que
le
père est conscient.
D'autres pensent que c'est une scène un peu nulle, quoi.
Peut-être, ouais. Mais c'est qu'en plus, le père est conscient que c'est son fils qui, du coup, entre guillemets, dirige sa vie, de par les scénarios. Puisqu'il le remercie, on voit dans les bulles qu'il le remercie, quoi. Il fait, merci mon fils, c'est vachement bien. Enfin, c'est super sympa et tout. Et le fait qu'il termine la dernière bulle, c'est quand même Excelsior, quoi.
Ah oui, mais ça c'est voilà, quoi.
Voilà. Et non, franchement, j'ai trouvé ces dernières pages super émouvantes, quoi. Alors, ça fait peut-être un peu genre fleur bleue, mais voilà.
Non, mais parce que peut-être qu'on est des vieux fans, puis ça a un peu réveillé ce côté-là vieux fan, quoi.
Ouais, complètement.
Et on se rend compte que Millar, c'est aussi, il est comme nous, c'est un vieux fan.
Ouais. C'est vrai que là, honnêtement, après ça, je vais le juger différemment ses prochaines productions, en tout cas, c'est sûr.
Mais ouais, moi j'ai passé un super bon moment en le lisant. Bon, c'est vrai que Colossus, qui est Milad, c'est comme à l'époque où je l'ai connu, quasiment. c'est vrai que ça fait un peu plus chaud au cœur encore, quoi. Mais voilà, ouais. Moi, quand j'ai fini de le lire, j'étais là, ça fait, allez, hop, je le relis, puis je l'ai relu une deuxième fois.
Ah oui, quand même.
Oui, parce que c'est vraiment tout de l'ambiance. Voilà, quoi. Puis bon, peut-être que je suis un peu nostalgique aussi, c'est peut-être l'âge qui avance, et puis que, voilà, quoi.
T'en es des vieux, maintenant.
Non, t'es encore tout jeune, toi.
Non, mais bon, c'est, franchement, une bonne mini-série, quoi. Franchement, je la conseille vraiment à tout le monde. En tout cas, à tout le monde. Non, pas à tout le monde. À tous les vieux nostalgiques, en fait.
Et non, moi, je le dirais à tout le monde. Même aux petits nouveaux qui ont jamais, où ils ont peu lu Marvel. Peut-être que ça donnera un coup de fouet pour relire les vieux épisodes.
Je pense pas. Malheureusement, je pense
honnêtement,
pas.
Honnêtement, moi je sais pas, j'aurais lu ça à l'époque, si tu veux, en 1985 par exemple, ça m'aurait donné encore 5 fois plus envie de lire tout ça, quoi.
Oui, moi aussi, mais je pense qu'aujourd'hui...
Moi je le conseille à tout le monde, non.
D'ailleurs, il y a un énorme boulot au niveau de tous les vilains, il y a pas mal de recherches sur les vilains, comment ils étaient à l'époque, en 1985, au niveau du look... Au niveau des persos qui étaient vivants, des persos qui étaient morts, de pas mettre de vilains qui ne sont apparus que des années plus tard, du genre...
Rien Galactus, là il est considéré comme un vilain, alors que maintenant c'est clairement défini que c'est une sorte d'entité, quoi, d'un mal nécessaire dans l'univers, quoi.
Ouais, voilà, c'est ni un vilain, ni un gentil, quoi,
C'est une entité cosmique, quoi.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il ne peut pas vraiment définir, quoi.
On voit pas passer des personnages comme, je sais pas moi, Omega Red, ou même Sinister, qui à l'époque n'existait pas encore.
Non, mais bon, c'est aussi les plus emblématiques aussi de l'époque, le vautour.
Il y avait des emblématiques, quoi. Il y a aussi quand même des personnages qui sont pas si emblématiques que ça, quoi. On voit passer Absorbing Man.
Moi, je l'aimais bien, Absorbing Man. Moi, je le trouvais excellent, quoi. Ouais, il y a MODOK aussi, il y a Crâne Rouge. Ouais, bon, MODOK, tu vois, il est un peu ridicule maintenant, mais à l'époque, c'était grandiose, quoi. Je me rappelle.
Il y a même une double page avec Fing Fang Foom.
Attends, Fing Fang Foom. C'est, je crois, que le meilleur nom de super vilain qui existe au monde. Fing Fang Foom. C'est je crois que je me rappelle que je me le répétais des fois en boucle quand je disais des histoires avec Fing Fang Foom dans Iron Man. Et après, tu passes en mandarin, c'est vachement moins cool. Ouais.
Mais
quand tu lisais, tu disais waouh, une histoire avec Fing Fang Foom.
Le mandarin, je sais pas s'il est vraiment présent en fait. Je me rappelle.
Je sais pas du tout, mais bon, c'est à peu près la même chose.
C'est vrai qu'il y en a, on les voit pas, ils sont seulement cités, quoi. Et non, mais il y a vraiment tout un travail, et ça, c'est cool, quoi. Enfin, j'ai
même les costumes, hein, des super-héros et tout.
Ah ouais, ils sont bien respectés.
Ça, sont vieux costumes, hein.
Ouais, complètement.
Les autres, je m'en fous, quoi, mais.
L'autre petit passage terrible, c'est le gamin qui écrit Avengers Assemble à la place de Cap, quoi.
Ah bah oui.
Et qui lui dit désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Mais Cap avec le petit sourire qui accepte, quoi. Pareil, qui n'a pas rêvé en tant gosse de faire ça une fois dans sa vie.
Me mettre à la place de Captain America, non, moi jamais.
Non, de diriger l'équipe, pardon. À la place, quoi, de genre d'être le chef et de dire allez, on y va, à l'attaque.
Bah, moi j'aurais dit go poutre.
Allez, on rajoute du poney. Ouh.
Voilà.
Non, mais bon, voilà. Enfin, moi, vraiment une très très bonne mini-série. Non, ouais,
franchement, une bonne surprise.
Ouais, une très bonne surprise, ouais. Franchement, si vous ne l'avez pas encore, achetez-le. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, bon, bah, c'est tout pour notre podcast de ce mois-ci. Enfin, de cette quinzaine, en tout cas. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour le podcast Marvel du mois de juin. C'est comme ça au mois de juin. Et non pas au mois de mai.
Bah évidemment, sinon ça serait celui de juillet, hein.
Mais non, c'est que j'allais dire au mois de mai, je me suis trompé. Mais voilà, donc le podcast du mois de juin pour Marvel. Et donc, d'ici là, portez-vous bien.
Et à bientôt.